Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui fait son retour. Retour aussi sur scène d'ailleurs avec son nouveau spectacle au Palais des Sports à partir du 8 février chez nous cet après-midi, Gad Elmaleh. Bonjour. Gad, laissez-moi vous rappeler quelles sont les autres grosses têtes.
Oh,
bah, l'air désespéré, c'est agréable. Oui. Vraiment.
La dame blonde là-bas, une grosse tête dans le QI de 130.
Ah, le QI.
Et parfois contaminée par le variant bêta. Oh. Caroline Diamant.
Oh là là, là, là. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Une grosse tête qu'on appelle déjà plus Julie d'Europe 1, mais Julie des grosses têtes. Julie Leclerc. Bravo. À vos côtés, une grosse tête qui peut-être pourra faire comme Stromae, répondre aux questions en chantant. Joyce Jonathan.
Bravo. Bonjour.
Une grosse tête qui joue dans un canapé au théâtre et dans un fauteuil à RTL, Jean Benguigui.
Et le pire.
Une grosse tête qui est le seul journaliste qui rêve de présenter le Club Dorothée, Christophe Beaugrand.
Bonjour.
Ah, vous m'avez percé un jour.
C'est pas faux, hein, en même temps.
Oui, j'ai eu envie de faire de la télévision en regardant Dorothée. Vous voulez qu'on chante Dorothée dès le début de l'émission?
Non, surtout pas. Non,
parce que vous savez, quand je chante Dorothée, c'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre qui vient nous emporter.
C'est l'effet Stromae, ça. Hein.
Ouais. Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Ouh, la menteuse.
C'est pas votre génération, Dorothée, vous, monsieur.
C'est surtout que j'ai pas grandi en France.
Heureusement.
Alors, c'est quoi, les dessins animés?
Mais ça me fait bizarre de voir Christophe Beaugrand habillé. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a une telle. Il livre des images d'une quantité de lui en maillot de bain.
Mais c'est parce que j'étais en vacances au soleil, c'est pour ça.
Oui. Non, même, il y a des fois, c'est en intérieur. Des fois,
c'est vrai que vous aimez bien vous montrer torse poil, monsieur Beaugrand.
Mais en fait, depuis que j'ai maigri...
T'as maigri ?
J'ai fait un peu de muscle et tout. Mais quand j'étais un petit gros avant, quand j'étais petit. Et donc maintenant, j'essaye d'utiliser mon corps comme une arme de destruction massive.
Oh, mais tais-toi.
Aussi, d'ailleurs. Tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'elle préparait votre maman dans la cuisine.
Eh ben, y a une surprise qui se prépare. À mon avis, ça ne va pas être très original. Ma mère qui dit c'est une surprise, on sait tous que ça va être un couscous. Donc ça fait des années qu'elle dit surprise et ça termine par un couscous. Donc, arrêter, maman.
Lui, il publie le couscous, moi je fais les boulettes.
Là, parce que je vous suis sur Instagram et j'ai vu, je l'adore votre maman, c'est une star d'Instagram.
Bah oui, elle est tellement naturelle, elle est tellement.
Et j'ai vu qu'elle préparait quelque chose dans la cuisine, mais on sait pas quoi encore.
Moi je sais, elle me l'a dit.
Donc c'est vraiment un couscous alors.
Je sais pas, je peux pas le dire.
Elle le fait comment le couscous par rapport à chez Benguigui?
Alors chez Benguigui, ils emploient des gens pour le faire.
Oh, il y a des moyens.
Il y a des moyens. Bah,
sa femme, elle mange que des jus crus.
Même pas votre...
Rien, touche rien. Mais ça, il y a longtemps.
Maintenant,
elle fait livrer. Elle fait livrer à l'extérieur. Moi, je fais plus rien, moi.
Cela dit, il y a une nouvelle boulangerie qui s'appelle La Quéqueterie.
Oui.
Je trouve ça dégoûtant d'ailleurs.
C'est vrai.
Mais oui, parce que je trouve ça très angoissant.
Elle est abonnée.
Ce sont des
éclairs
gâteaux.
Au chocolat.
Mais vous savez ce que c'est une verge ou pas? Ça s'appelle la quéqueterie, c'est une quéquette de gâteau.
Mais alors c'est un gâteau en
avec des toppings.
Avec des quoi?
Avec des toppings différents, de la chantilly. Non,
ah oui.
Vous semblez y aller tous les jours.
Ah, oui. Pour une nana qui aime pas ça. Hein,
moi, pour cette émission, j'essaie de me tenir au courant des nouvelles tendances.
Écoutez, attends, je vais regarder où est la quéqueterie la plus proche.
Mais je crois qu'il y en a
qu'une. Il y en a qu'une.
Ah, je pense qu'il y en a.
Il y a une app d'ailleurs. Il y a une app qui te dit une quéquette dans 8 minutes.
Ah oui. Alors j'ai une application qui dit ça, mais je vais pas les ramener.
C'est Uber Beat. Une première citation, si vous voulez bien, pour monsieur Pierre Couchant, qui habite l'homme, tiens, un peu comme vous, dans le Nord, qui a dit « Le commerce va très mal, même les gens qui ne payaient jamais n'achètent plus.
» Groucho-Marx ?
Non,
c'est français.
C'est de cette époque et c'est français.
C'est Pierre Dac.
Pierre Dac, le Groucho-Marx français. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une autre citation, encore un habitué que j'aime beaucoup, pour Guillaume Leguet, qui habite Busigny dans le Nord, qui a dit, et je trouve que c'est étonnamment d'actualité, même si pourtant c'est ancien, qui a dit « Ne respirez jamais avant d'avoir fait bouillir votre air ».
Pierre Doris.
Pierre Doris, bonne réponse.
Le prochain, ça devrait être Pierre Desproges si on reste dans les initiales.
Ah non, là, on va aller dans les des choses beaucoup plus difficiles, vous voulez bien.
Ah bah voilà, là, je vais allez.
Tu vas y aller, là, gâteau.
Là, je vais y aller. Je vous ai laissé avec les Pierre Doris et les trucs et les petits machins comme ça.
Ah, c'est pour les intellos, maintenant.
Voilà, on allez, monte le niveau d'un cran qui a dit « La vie, ce n'est pas sérieux. On y entre sans le demander. On en sort sans savoir où on va et on y reste sans savoir ce qu'on y fait. »
C'est Woody Allen. C'est Woody Allen.
Moi, pas Woody Allen.
Je dirais que c'est Oscar Wilde.
Non, c'est français.
C'est français.
Comment tu l'appelles, Oscar Wilde?
Jules Renard.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde, elle, pour elle, c'est une spécialité d'un resto japonais. Pas loin. Un Oscar Wilde.
Oh, tu crois pas si bien dire. Tu sais, j'ai eu des problèmes dans les restos japonais à côté de chez moi.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Elle a demandé une quéquette.
Non. Non, parce que j'ai demandé ce qu'il y avait dans le menu et le monsieur m'a répondu il y a ça, il y a ça et il y a Inacho. Et j'ai dit, mais c'est quoi, monsieur, un Inacho? Et là, ma fille m'a regardé, elle m'a dit, maman, le monsieur a dit Rinature.
Rinacho.
Rinacho. Je suis partie dans un fou rire. Je pense que j'ai ri 10 minutes sans pouvoir parler au monsieur. Et vraiment, je me suis dit, je fais. Non, mais je m'a.
Mais tu peux avoir une association, tu peux avoir une manif, tu peux avoir tout un truc là.
Très raciste.
Mais c'est raciste. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir compris un mot?
Très grave.
Et de faire la fille qui s'intéresse.
Inacho, c'est un restaurant mexicain virtuel. C'est un inacho, c'est un nacho qu'on t'envoie à distance en fait.
Bon, dites-moi.
Bon, alors la citation là.
Sacha Guitry.
Sacha Guitry, non, mais il s'agit d'un dramaturge effectivement.
Jules Renard.
Non, un dramaturge.
Eugène Labiche.
Jean Anouilh.
Tristan Bernard.
Fredo.
Non. Jean Anouilh, on se rapproche, mais c'est pas
ça. Ionesco.
Non. Jean Giraudoux.
Non, non, non.
Marcel Achard.
Marcel Achard. Bonne réponse de Jean Benigni. C'est Marcel Achard.
Il est sympa, votre sketch.
Une question pour Hélène Carpi, qui habite Champtoce-sur-Loire, c'est dans le Maine-et-Loire. Et la question concerne un Américain qui s'appelait Harry Williams.
Oh là là, vous parlez bien anglais.
Harry et... Williams.
Harry oui, Williams.
C'est le numéro 22 sur la carte.
Harry Nature.
Harry E. Williams, en 1935, a inventé quelque chose pour empêcher les joueurs de tricher. Mais quoi donc?
Les joueurs de quoi déjà?
Ah, bah c'est toute la question.
Eh ben la vidéo.
La vidéo, non.
En 1935?
Est-ce que c'est miroir? Il a mis des miroirs.
Est-ce que c'est un sport?
Un miroir, non. Alors un sport, certains pourraient considérer ça comme un sport.
La pétanque.
Oui, les échecs.
Non, parce qu'il y a eu des compétitions, mais on ne peut pas considérer que
c'est un sport. C'est le poker.
C'est quelque chose qui est un peu, hélas, en perdition aujourd'hui.
Le curling?
Le curling, non, mais vous y avez tous joué à l'époque. Et attention, je ne vous demande pas le jeu. Je vous demande ce que ce monsieur a inventé pour empêcher les joueurs de tricher.
Oui, mais trouver le
parce
jeu peut nous aider quand
tricher,
même.
Bien
sûr. C'est
pas, le jeu d'échecs.
Les esclets.
Les échecs, non, les osselets.
Le bilboquet.
Non. Le bilboquet,
alors,
non.
C'est un jeu auquel on joue quand...
Le Bill Clinton.
C'est un jeu auquel on joue quand on est enfant.
On joue comment au Bill Clinton, monsieur?
Demande à Monique
Lafay de mettre en
place. Alors, je peux vous expliquer.
Elle a fait.
On attache un cigare à un fil. On essaye de rentrer dans le...
Dans la stagiaire.
Oh, quelle horreur!
Bon, pardon, mais est-ce que c'est un
jeu? C'est de l'harmonica!
Est-ce que c'est un jeu auquel on joue enfant?
Alors, enfant, plutôt adolescent et adulte.
Le cerf-volant.
Oui, il y en a beaucoup ici, mais c'est pas ça.
C'est rigolo, vous trouvez, vous?
Ah, oh, c'est rigolo.
La bataille, la bataille.
Moi, la première fois que j'ai joué à ça, j'étais tellement fier, si vous saviez.
Non, mais attends.
Était fier quand il a joué.
C'est pas le billard.
Il était fier
quand il a
joué. Le
billard, non, mais on se rapproche.
Oh,
le flipper.
Le flipper, oui. Okay.
Alors,
c'est qu'on
n'a pas le droit
de très bonne.
On n'a pas le droit de trop secouer, sinon ça fait tilt.
Ah, le tilt.
Le tilt, il a inventé le tilt. Bonne réponse de Gad Elmaleh, Christophe Beaugrand. Le tilt. Eh oui, au début, au flipper, il n'y avait pas de tilt. Et évidemment, les mecs qui jouaient au flipper,
ils secouaient
le flipper.
Ou alors, j'essayais de le lever un peu.
Pour que les boules réussissent à rentrer dans, enfin,
dans
les trous.
Oui. Bah, c'est comme le Monica Lewinsky. Hein.
Et le gars a eu l'idée du tilt.
Nous, on aurait bien aimé que le tilt existe, hein, parfois, avec sa femme.
Pourquoi vous êtes attendez à côté?
Tu te compares à un flipper, je
crois. Non, mais parfois, il y a des hommes, quand t'es jeune, tu fais l'amour avec des hommes qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui te secouent comme un prunier, t'aimerais bien que...
Non, non, mais on te secoue
la...
pas.
L'électricité, non.
C'est obsédé.
Elle se prend pour un flipper.
Mais, attends, non, elle se prend pour un prunier.
Et tu sais comment on appelle le flipper à Lyon ? La babasse.
Le tilt, en tout cas, voilà l'invention de monsieur Harry Williams. C'est vrai que quand on est jeune homme, on est super fier le premier jour où on rentre dans un bistrot et qu'on...
J'ai eu peur de la fin de la
Et qu'on joue au flipper.
Non, c'est vrai, c'est un truc de grand.
Il y a un petit côté, vous voyez, ouais, la première fois que j'ai... je me souviens, c'était au Molière. C'était le nom
vous
du...
présentiez les Molières.
Non, c'était le nom du bistrot au Havre.
Non, mais vous avez raison, quand on est gamin, on arrive à peine à la hauteur du mais flipper oui, et on rêve.
Mais quand
on
même
sera
quand t'es grand, t'arrives à peine.
Jean Benigni joue au baby foot, mais sur le terrain.
Moi, je me souviens quand on était gamin, il y a un gars qui venait. À chaque fois que le mec venait réparer le flipper, on se mettait autour parce qu'il offrait des parties gratuites.
Ah, génial.
Et avec. Il appuyait sur un bouton, il faisait cling, 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 tu vois, avec son doigt.
Il n'avait pas besoin d'être les pièces.
Il n'y a que lui qui savait où était ce truc. C'était le point G de notre enfance.
Il faut c'est... le présenter à Caroline, votre copain. Je suis sûr que Gad Elmaleh, il a un flipper chez lui, non ?
Non, mais récemment, j'ai vu chez quelqu'un un flipper et un Space Invader.
Génial !
Le vieux, le pi.
La borne d'arcade.
La borne d'arcade, voilà. Mais j'aimerais bien avoir un flipper.
Et un jukebox, c'est le truc, vous voyez.
Et un jukebox et une femme aussi.
Que des jeux qui font perdre beaucoup d'argent. Non, il y a des jeux. Julie, vous semblez pas connaître le flipper.
Mais si.
Ah oui, ah oui.
Bah, j'ai l'âge de connaître le flipper quand même.
Elle a l'âge de l'avoir inventé.
Oh. Arrêtez, vous avez le même âge.
Mais non, c'était en 1935.
C'est dans les années. Alors, c'est intéressant, votre question, en tout cas pas votre question, mais votre réflexion, Mme Diamant, parce que le flipper, c'est à Chicago qu'il a été mis au point.
Ils sont bons, ces Chicago.
Dans les années 30. Par des... Comment vous avez dit ?
C'est chicagolais.
C'est Chicago. Ouais.
Ça, c'est le pire, les mecs du Congo qui habitent à Chicago.
Attends, mais tout
le
à
pire, c'est les femmes, les Chicagoles.
Chicagoles.
Mais comment on dit les Chicagoles ?
Elles sont pas propres.
Non, mais on dit pas pour.
Ce sont des mécaniciens et des électriciens au chômage depuis la crise de 1929. Il y a eu la crise de 29. Ouais. Donc beaucoup d'ouvriers au chômage. Et c'est là qu'a commencé à être inventé le flipper, qui est une sorte de mélange du billard japonais, du jeu de
baguette. Le billard est japonais.
Ouais, Inacho, oui. Inacho.
Et le flipper a été interdit dans plusieurs grandes villes américaines.
Ah bon ?
À Atlanta en 1939, à New York en 1940. Parce que c'est des jeux de hasard et d'argent. Et, les gains ont été ensuite remplacés par des parties gratuites. Car au départ, c'était des jeux d'argent.
Voilà tout.
Vous voulez dire que... Ah oui, ça, on n'a pas connu.
Comme le casino.
Exactement.
Ça n'a jamais fait sortir des petites pièces. Oh, le casino, qu'est-ce que c'est bon quand la machine...
Calme-toi. Ça va bien se passer.
Non, mais tu t'imagines s'ils faisaient ça au casino ? Ce serait tellement débile, tu gagnes à la roulette, t'as le droit de rejouer.
La présence de M. Gad Elmaleh ainsi que celle de M. Benguigui pour poser une question cinéma. Et il s'agit de retrouver le nom d'un réalisateur.
Tu sais qu'on a eu très peur tous les deux. Hein.
Pourquoi ?
Quand t'as dit je vais profiter de la présence de Gad Elmaleh et Jean Benguigui.
Pour faire arrêter à l'audience.
Pour poser une question sur le couscous, il n'aurait jamais fait.
Non, il s'agit de retrouver un grand réalisateur américain de cinéma.
Laisse-moi faire, Jean. Je vais m'en occuper.
Mort dans un accident de voiture en 1998. Vous voyez, il y a un petit moment déjà. Et ce grand...
Goodman, non ?
Pardon ?
Goodman,
non. Il s'agit d'un réalisateur qui a tourné, entre autres, Le souffle de la tempête. Merci d'avoir été ma femme. Je vous donne les titres
John
Cazavetes.
Non, je vous donne les titres en français, évidemment. Attention, des films encore plus importants vont arriver derrière. Une femme d'affaires. Le choix de Sophie.
Sidney Pollack, voilà.
Non. À demain, mon amour. Présumé innocent.
Kramer.
L'affaire Pélican.
Ah,
je sais.
Ah,
oui.
Mankiewicz.
Non. Et ennemi rapproché.
Oh là là.
Sam Peckinpah.
Non plus.
Je le connais.
Sans oublier, bien sûr, peut-être le plus connu de tous les films, Les Hommes du Président. L'affaire Pélican,
mais oui, je
le choix de Sophie.
L'affaire Pélican, très mauvais film avec Julia
Baladur,
Robert.
Avec Edouard Baladur.
Julia Robert.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
C'est sur le Watergouâtre.
Monsieur Ruquier, je vous demande de vous arrêter.
Alors, qui est-ce?
Alors, l'affaire Pélican, c'est quand même des films importants.
Mais oui, des
ça.
Films connus, Les Hommes du Président aussi, c'est très connu.
À cause d'un assassinat.
Attendez, est-ce qu'il a un nom à consonance typiquement américaine?
Je crois qu'il s'appelle Sam.
Ah, pas du tout.
Non, il a un nom, il est juif.
Ah, il est né à New York et il est mort dans un accident de voiture dans l'État de New York en 98.
Est-ce qu'il est juif?
Effectivement, un fils d'imprimeur immigré juif venu de Pologne.
Ah, je connais que lui.
Je connais, moi, je pensais que c'était Mankiewicz.
Il a grandi dans le Bronx. Et là, quand même, on a un acteur.
Il a écrit du théâtre aussi ou pas?
Non, on a un acteur de cinéma quand même très célèbre. On a deux acteurs de cinéma très célèbres.
On a trois acteurs qui connaissent bien.
Vous avez failli en vexer un, là.
Non, il y en a
vous
un.
En avez oublié un au
début. Il y en a un des deux qui est formidable, t'inquiète pas. Oui.
Il a un nom polonais, mais qui sonne allemand.
Oui, non, oh, il sonne.
C'est pas Roland Emmerich, parce non, il est toujours.
Moi, je propose qu'on change de jeu.
On passe au flipper.
Oui, c'est une question la contemporaine, d'actualité.
Mais oui, qu'on devrait trouver.
Cinématographique.
Est-ce qu'on connaît son
visage? Sidney Lumet.
Non.
Est-ce qu'on connaît son
visage?
Lumet,
non.
Lumet. Laurent, est-ce qu'on connaît son visage? Il faisait souvent de la télévision.
Il avait des grosses lunettes et puis une petite barbichette à la fin.
C'est pas Sam quelque chose.
C'est pas Sam quelque chose.
Il y a combien de syllabes au nom de famille de ce monsieur?
C'est John, je vous en supplie.
Le nom de famille, c'est trois syllabes, mais on donne toujours son prénom avec son nom.
Il est mort comment? Il est mort comment? Il
avait Otto Preminger.
C'est un petit prénom.
Otto Preminger.
Ah non.
Il est allemand.
Il a eu un accident de voiture, mais il s'appelait pas Otto pour autant.
Est-ce qu'il avait eu sa troisième dose ou pas du tout? C'est ça que je veux savoir.
On était tranquille, c'était la belle époque.
Oui.
98.
Eh oui, c'était le bon temps.
Mais il n'y avait pas d'airbag non plus.
Il est mort dans un accident de voiture en 1998, dans l'État de New York. Le choix de Sophie, Les Hommes du Président, l'affaire Pélican.
Oh là là.
C'est honteux,
c'est honteux.
Je vais avoir envie de.
Il y a quelqu'un
tuer.
Dans le public qui sait.
Ah bah forcément.
Mais forcément.
Ah bah, y a quelqu'un pour qui l'instant, sait. C'est en tout cas 300 euros.
Attendez, on a 30 secondes. Donnez-moi les initiales.
Ah non, sûrement pas. Ah non.
Donnez-moi l'initiale.
Donnez-moi le nom.
C'est un petit prénom. C'est un prénom de très court.
Un prénom très court.
Tom. Bah Tom, ouais. Le prénom.
Ben.
Non.
John.
John.
Gad. Non plus. Non,
George.
Joyce.
Joe.
Joyce.
Michael.
Le premier film, c'était Pookie, si ça peut vous aider.
Ah, Yana Kamura.
Curieusement, on se rapproche du nom.
Makash.
Makash Wallow.
Regardez, une main, au minimum une main, deux mains dans le public. 100 euros dans le public, monsieur Beaugrand, vous y allez.
Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous?
Bonjour, Serge.
Alors Serge, vous venez d'où et vous faites quoi de beau dans la vie?
Je viens du Val-de-Marne.
Oui. Ça vous fait rire vraiment?
Oui, parce qu'il pense qu'il est portugais, c'est Sébastien Toen qui.
Il a peur, j'ai fait peur. Alors, vous faites quoi dans la vie? Rien, j'imagine.
Non,
c'est pas cool de dire ça, rien dans la vie. Comment ça?
Je suis retraité.
Mais c'est ce que je voulais dire, voilà.
Ah, okay.
Non, mais c'était pas du tout un jugement de valeur, mais vous.
Bah, si, ça.
Non, mais il fait retraité, le monsieur, quand même, Serge.
Retraité, c'est pas rien. Voilà.
Quoi? Oh, bah non, oh, je me fais huer, pardon.
Retraité de quoi, monsieur?
Éducation nationale.
Voilà.
Ah, bah ça
voilà.
Fait longtemps, en plus.
Tu vois, il a 34 ans.
Bon, alors, est-ce que vous avez une idée de la réponse?
Pacula.
Alan Pacula.
Bravo.
Excellente réponse.
Eh ben, vous avez gagné 100 euros. Félicitations.
Difficile, hein?
On est nul.
Ah bah non, difficile, difficile. Ah ouais. C'est une question cinéma, mais quand
non,
même,
on est nul.
La preuve que ce n'est pas si difficile que ça, c'est qu'on a un retraité de l'éducation nationale qui vient de gagner 100 balles. Et monsieur Blanquer vous enverra.
Je comprends maintenant, je comprends.
Monsieur Jean-Michel Blanquer vous enverra le chèque directement.
Je comprends parce que quelqu'un dans le public essayait de me souffler, puis me disait Pacula, Pacula. Et moi.
T'as compris Dracula?
Moi, non, je me disais Cula, j'allais pas dire Cula, donc c'était pas Cula, pour moi c'était pas Cula. Et je lui disais, mais dis-moi qui alors si c'est pas Cula. Et alors il me disait pas du tout, il me disait, si c'est pas Cula, c'est qui? Il me disait, non, pas Cula, pas Cula.
Alan G. Pacula, d'ailleurs, Alan G. Pacula. Oui. Auteur, réalisateur de ces magnifiques films, particulièrement Le Choix de Sophie et Les Hommes du Président.
Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Jean-Bendigui, Christophe Beaugrand, Julie Leclerc, Caroline Diamant, Joyce Jonathan. Et nous irons tous au Palais des Sports en février applaudir Gad Elmaleh. On aura des des taxes
non, alors non, justement.
Ah non,
non, c'est la période est difficile, on a annulé beaucoup de spectacles et je vous invite, Laurent Ruquier, à payer votre place.
Merde voilà. Alors voilà, eh bien, je paierai car j'ai envie de m'amuser et rire. Et pour vous, je paierai, Gad.
Oh, c'est beau.
Ah, oui. C'est beau, hein, ah, franchement, oui, c'est beau.
Cette générosité.
Ah, oui,
parce qu'en plus,
ça.
Il n'a pas beaucoup de sous. Hein.
Pardon.
Qui est Laurent Ruquier ?
Oui, Laurent Ruquier. Ça.
Et toi non plus, c'est ça qui est chiant. Oui.
Donc on est just en ce moment. Ça.
Oui. J'aime bien quand ceux qui se foutent de ma gueule gagnent à peu près autant que moi.
Oh, j'adorerais, tu rigoles. Non, ça va, tu fais 800 émissions quotidiennes.
Non.
Arrête de te plaindre.
Mais non, mais c'est plus que c'est.
Moi, je l'ai remarqué, Caroline.
C'est mais oui, de... mais c'est toujours. Mais oui. Mais moi, quand je joue au poker, je suis entouré de gens qui sont blindés et qui me disent « Allez, vas-y avec tout ce que tu gagnes ». Non mais sans déconner, c'est toujours...
Bon, ma question littéraire pour Jackie Sanchez qui habite Épone dans les Yvelines. Je paierai ma place avec grand plaisir, monsieur.
Épone.
Gad Elmaleh, c'est combien à peu près
Il est prudent de louer.
Je vais inviter Laurent.
Ah,
ouais, je pense que je vais l'inviter.
Ah bon, merci.
Ouais, ouais, vraiment.
Ah bah écoutez, c'est du 8 au 26 février. Vous pourriez m'inviter le 24, c'est mon anniversaire.
C'est pas vrai.
Oh.
Oui, le 24.
Ah ouais,
oui.
Mais l'anniversaire, on passe toujours ensemble, on est 52.
C'est tradition.
Ah, ce serait un bel anniversaire.
Ah oui,
ah, oui, on serait là tous au Palais des Sports.
Et puis je ferai chanter 4000 personnes, joyeux anniversaire.
Ah, c'est classe.
Bah, oui. Oh, c'est beau.
Et Marilyn Monroe.
S'il n'y a plus les jauges. Et Marilyn Monroe.
Les jauges.
Sinon, je viendrai habillé en Marilyn Monroe pour
les jauges. À part Sophie Aram qui trouve tout ça très cohérent. Et il n'empêche que
ah
quand
bon,
même...
Ah bon, mais pourquoi elle trouve ça cohérent?
Il n'empêche que quand même, quand on voit les jauges, par exemple, dans les stades de foot, c'est quand même... Ne me dites pas que c'est d'une cohérence extraordinaire.
Et surtout, ils les mettent tous au même endroit.
Bah oui,
moi, je veux bien qu'on ferme notre gueule tout le temps, mais à un moment donné, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Pas le droit à plus de 2000.
Mais ils sont tous les uns
très bien.
Les autres.
On les met tous il dans la même tribune.
Au même endroit. Ça n'a aucun
mais à part
sens.
Ça, c'est normal. Non,
non mais c'est vrai que ça n'a aucun
faut,
sens.
Il faut qu'on
ça
ferme notre sens. Gueule et il faut qu'on nous dise que tout est normal, que tout va bien.
Non, ah oui, non, écoutez. Les jauges, pour moi, c'est un masque avec un trou. Quoi. C'est, vraiment.
Non, mais c'est ça.
Ah ouais, non, vraiment.
Non, mais c'est n'importe quoi. On vit quand même un monde de fou. Il faut quand même dire les choses comme elles sont.
C'est pas con, cela dit, le masque à trou pour la paille.
Oh, j'ai cru autre chose.
En gros.
Bon, bah, voyons, on va bien s'amuser quand on va venir au Palais des Sports.
Le masque à trous. Alors, le masque à trous, c'est un de mes sketchs, hein, que bon, on trouverait dans le spectacle, bien entendu, juste après Inacho et tous les gags.
Tu le feras, Inacho, tu le feras?
Oui, je le ferai, Inacho, bien sûr.
En février, au Palais des Sports, Gad Elmaleh, mais c'est l'heure de la question littéraire. Pardon hein, de vous décevoir, monsieur Gad
Elmaleh. Non, mais il y a un lien.
Et puis, monsieur Benguigui attend ça avec impatience parce qu'il veut prier. Il veut briller.
Il veut prier aussi.
Il est devant les autres.
En vieillissant, j'ai un côté mystique.
Oui,
il veut briller à la maison en rentrant.
Ah,
oui. Parce que Sylvie écoute. Et
mais si, arrête, elle n'écoute pas.
S'il n'a pas cinq bonnes réponses, ouais. Il se fait engueuler.
Il se la met sur l'oreille.
Mais au moins, il a quelqu'un quand il rentre chez lui.
Faites quelque chose, on va lancer un gâteau. Ton.
Bah non.
Ah non, à mon avis,
un gâteau bonasse.
Un ton, il peut trouver tout seul.
C'est ce qu'a dit Joyce, c'est un gâteau bonasse, mais pas un gâteau. Ton, vous voyez,
c'est vrai.
L'auteur qu'il s'agit de retrouver maintenant a été prix Nobel de littérature. On n'en a pas tant que ça en France, car il est français. Prix Nobel de littérature a obtenu cette récompense?
Albert Cohen.
Non,
Sartre.
Non, en 2008, c'est récent.
Ah, récent.
Vous voyez.
Patrick Modiano.
Non,
non, c'était en 2008.
Non, c'est Bob Dylan. Cherche...
Bob Dylan, non, un français, Bob Dylan. Voilà.
Oui. Chante français maintenant, Bob Dylan.
Ah, bah, chante
à mon avis, elle a dû coucher avec Hugo Frey.
Oh, mais non.
Ou Patrick Gérard et son grand chapeau.
Daniel Gérard.
Daniel Gérard.
Ah oui. Et vous, t'as couché avec lui?
Mais non.
Avec qui t'as pas couché?
Ok, c'est la séquence, on dit tous avec qui on a couché dans le métier, ok?
Ils sont malades.
Il faut quand même vous dire, regarde qu'on a là les deux plus grandes starfuckeuses.
Ah ouais, c'est incroyable.
Trois avec Joyce, mais...
Elle est plus jeune, elle a eu moins de temps.
Délire,
bah, que...
il délire.
Bah, soit je ne suis pas assez star, soit j'ai raté le...
Ah bah. Non, mais... Soit tu n'es pas assez fucker.
Alors, non. T'es trop jeune surtout.
Elle dit des trucs en douce, Joyce Jonathan, mais elle les dit quand même.
Elle les dit vraiment d'une manière perverse et douce, c'est vrai.
Mais...
T'as un œil très curieux.
Mais non, mais elle a raison.
Parce qu'on a aussi des dossiers sur toi, faut pas t'inquiéter.
Non, mais ceux de Julie, vous pouvez pas les connaître parce que
c'est la Troisième République.
C'est l'époque.
Les Français parlent de
ceux de Julie, c'est
les Cotis.
C'est l'époque des yéyés, voyez-vous.
Non,
Ah bon, elle,
non, non,
il n'y avait pas Georges Guettari.
Elle, elle s'est vraiment tapée tous les yéyés.
Moi, je... Bien ou quoi? Mais pas. À l'époque des yéyés, j'étais au lycée, qu'est-ce que vous racontez?
Moi, ma mère, c'était tous les ya-ya.
Bon, alors, non, mais j'aimerais savoir, qui a comme, non, mais y a qui comme star à son tableau de chasse, vraiment?
Bon, dites mon prix Nobel.
Non, non, moi, ça ne m'intéresse pas.
C'est-à-dire, c'est quoi la question exactement?
Alors, non, le prix Nobel, c'est mieux.
Bon, 2008.
Non, mais il y a qui vraiment de
prix
célèbre?
Nobel de littérature, on en reparlera tout à l'heure. Ah, prix Nobel de littérature 2008. On lui doit des livres comme Le Déluge, Les Géants,
Marek Alter,
Désert, Pawana, Ritournelle de la faim.
Pawana, c'est Papakana, justement.
C'est,
pas,
c'est encore un plat ton japonais. Non,
non, mais très connu.
C'est Pokéball,
Okawa.
Toujours vivant, hein, évidemment.
Toujours
Marek Alter, non. Il est encore en vie, vous avez dit. Il a quel âge aujourd'hui?
Prix Renaudot aussi, avec Le Procès Verbal en 1960.
Jean-Marie Leclésio.
Jean-Marie Leclésio, oui. Excellente réponse de Jean Benguigui.
Bravo. Et ce soir, ta femme n'aura pas la migraine.
Une question pour Thibaut Fachard, qui habite Valenton, dans le Val-de-Marne. Oui. On va aller en 1941, et cette année-là, alors, monsieur...
Bien savoir comment, et moi,
cette
je suis pas
prêt à dire ton... 41, c'est vrai que c'est une époque étonnante, évidemment, surtout pour créer une collection importante qui existe encore aujourd'hui. C'est Paul Engoulevent qui, en 1941, a fondé cette, cette exposition... Kiri, là, Kiri.
C'est Kiri, c'est lui.
C'est ce nom que t'aimes.
Parce que j'imagine, imagine un verbe qu'on ne connaît pas, c'est Paul Engoulevent le matin.
Engoulevent, il est venu...
Ah, il s'est fait un tour.
Du verbe goulever.
Le verbe goulever, Paul Engoulevent.
Il est venu
passé,
Engoulevent.
Il est passé Engoulevent.
Engoulevent. Il est venu Engoulevent vite fait.
Et puis il est reparti.
Bon, on ne comprend plus la question, là.
Eh bien, la question, justement, c'est de trouver quelle collection célèbre qui existe encore aujourd'hui a été fondée en 1941 par Paul Engoulevent, à cause d'ailleurs de la pénurie de papier à l'époque. Eh oui.
Est-ce que ce sont c'est des... la Pléiade.
La Pléiade, non.
Mais ce sont des livres?
Oui, ce sont des livres, oui.
Ah, c'était bien ça. Ah,
ce sont des encyclopédies?
C'était bien la Pléiade, mais ce n'est pas la Pléiade.
Oui, mais c'est, moi, ça me plaît bien.
Le Quid, c'est beaucoup plus ancien.
Le Quid, non, mais on se rapproche.
Le Tout l'univers?
Tout l'univers, non. On est sous l'occupation et effectivement, Paul Engoulevent, ancien conservateur.
Que sais-je?
Que sais-je? Ah, voilà. Bonne réponse de Jean Benguigui.
Qu'il est fort.
C'est la collection Que sais-je.
Incroyable, incroyable.
On a tous acheté ça une fois.
Ah bah oui.
Ah oui honnêtement, bah maintenant, c'est ça plus s'entendrait les... si on l'avait acheté.
Non, mais quand mais on...
C'est bien fait.
Non, moi, je ne savais pas. Il faut que je m'achète d'ailleurs un livre là-dessus. C'est Que sais-je pour les nuls.
Ah ben, il est nul aujourd'hui. Pour les nuls,
pour les nuls.
C'est, un peu c'est un peu la version moderne.
Oui, mais c'est compliqué. Parce que j'ai acheté l'Histoire de France pour les nuls, honnêtement.
Oui.
Rapport au fait que je sois dans cette émission. Et qu'il fallait que je révise
comment
un
tu parles bien rapport au fait que je suis dans
acheter ça plutôt le français pour les nuls. Allez, je voudrais maintenant que vous me retrouviez justement le nom d'un médecin. Un médecin qui est mort dans une clinique psychiatrique à Lausanne en 1904.
Il est mort en tant qu'en pratiquant ou en tant que...
En croyant.
Que...
Un célèbre médecin.
Est-ce qu'on le voit souvent en ce moment sur les chaînes info? Non.
le professeur Raoult.
Ouais, le professeur Raoult, nous verrons peut-être.
Il a été blessé à la tête par un coup de feu tiré par une de ses anciennes patientes.
Oh, Freud.
Qu'il prétendait avoir... enfin, elle prétendait avoir été hypnotisée contre son gré, voyez-vous.
Mesmer.
Non. Et donc, évidemment, après une balle dans la tête, il a...
Ah, ça fait mal. Bah, on a du mal à parler, déjà.
Son état mental s'est aggravé, voyez-vous.
Ah oui.
Il a été démis de son poste, interné dans une clinique psychiatrique où il est mort le 26 mai 1904.
Et quand vous dites qu'il était médecin, il était médecin psychiatre?
Alors, il était médecin...
C'est Jung.
Jung, non. Qui, vous l'avez compris, manifestement...
hypnotisait.
Voilà, utilisait l'hypnose.
Et bien moi, je me demande si c'est pas celui avec l'anglaise. À deux, ils ont pas inventé le godemichet.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, quand on vous dit qu'elle est excitée aujourd'hui...
Non mais,
qu'est-ce qu'elle a?
Quelle
non,
que soit la question, ça, elle renvoie à la quéqueterie.
Gade. Alors, je sais.
Mais ça va pas.
Tout ramène à la...
Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive?
Oh, vous me croyez pas, vous croyez pas.
Est-ce que ce médecin est français? Est-ce que ce médecin était français?
En tout cas, c'est mal rangé chez vous.
Est-ce qu'il est français? C'est une bonne question de Jean.
Oui, un français, effectivement.
Lacan, j'ai dit. Voilà. Vous m'avez pas répondu. Non,
vous m'avez dit Lacan, et comme c'était pas ça, j'ai fait...
Eh ben, c'est Charcot, alors.
Alors, non, justement, il a travaillé avec le successeur de Charcot à la Salpêtrière.
Est-ce qu'il a laissé son nom à un hôpital?
À un hôpital, non. Mais on connaît son nom pour autre chose.
Une technique ?
Un docteur Schweitzer ?
Schweitzer, non.
Une invention ?
Une invention, non.
Est-ce que c'est une technique de soins ?
Une maladie, un médicament ?
Une maladie, oui.
Ah, Gilles de la Tourette. Alzheimer.
Le docteur Gilles de la Tourette. Bonne réponse.
C'est mon préféré. Eh ben Gilles de la Tourette.
Ah ben là ça.
Il disait beaucoup plus de gros mots que moi.
Ah ben oui.
Ah, c'est génial comme
Saint Gilles Valentin, de la Tourette, médecin neurologue français, est mort dans une clinique psychiatrique.
Bit.
Et c'est vrai qu'on connaît tous le syndrome Gilles de la Tourette.
Salope.
Qui consiste effectivement à dire des grossièretés.
Oui, salope. Mais c'est pas drôle parce que c'est au-delà du. C'est pas juste un syndrome.
Non, c'est une maladie psychiatrique.
L'angoisse.
Voilà, c'est.
Il y a des gens qui travaillent. J'ai déjà raconté ici, mais je vous jure que c'est vrai, à une époque, et je le salue s'il nous écoute, le régisseur du Don Camillo, Rive Gauche, où je passais de temps en temps, qui était un cabaret, je vous parle, dans les années 90, était atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Alors, c'était assez amusant.
Et c'est lui qui vous présentait ?
Non, il ne présentait pas, il était régisseur.
Connard, pédé, connard !
Mais c'est pire que ça, parce que lui, il était vous étiez sur scène.
Ah, vous l'entendiez ?
Et le Don Camillo, c'est un endroit très petit, vous voyez là, admettons, je suis là sur scène, vous voyez où est assis Gad Elmaleh, le régisseur est là, et pendant que vous faisiez votre spectacle, je vous jure que c'est vrai, vous pouvez demander à Bernard Mabille, à tous ceux qui sont passés
il
au Don
Camillo,
ben vous entendiez pendant toute la durée de votre spectacle, connard, salon.
Ça me rappelle une petite anecdote que m'a raconté Franck Dubosc. Il appelle son fils juste avant de rentrer sur scène et il lui dit, maintenant que je vais rentrer sur scène, ok, tu as le droit de dire le mot. Et le petit dit, merde papa, voilà. Et le petit frère dit, moi aussi je veux. Et ben, ok, passe-moi ton petit frère. Il prend le téléphone, le petit frère, il dit, connard, enculé, connard.
RTL, le livre du jour. Oh, le livre du jour devrait intéresser ceux qui connaissent cette belle histoire. C'est un académicien français qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Je vous demande d'être un peu sérieux. Donc, Michel Zink de l'Académie française. Zink de l'Académie française publie donc chez Stock. Comment ça, on dit pas je connais pas à un monsieur qui vous entend en plus. Puisqu'on va l'avoir au téléphone dans un instant.
Elle est mal polie, hein.
Julie Leclerc, ça s'appelle.
Un peu d'éducation.
Ça s'appelle de l'incorrection, voyez-vous. Oui. Ça tombe bien, il vous connaît pas non plus.
Voilà. Je connais Michel Zink et je connais le.
J'aimerais bien qu'il me connaisse.
Alors, on va lui demander à Michel Zink, mais d'abord, il va falloir répondre.
Il doit être en train de me googler.
Il va. Mais d'abord, il va falloir répondre à la question, justement, qui concerne le sujet traité par Michel Zink de l'Académie française dans son dernier livre publié chez Stock. Et voici la question. Quel célèbre roman de Béroul a traversé les siècles jusqu'à une version en français moderne signée Joseph Bédier?
Il y a beaucoup de gros mots.
Qu'est-ce qu'on se marrait avant?
Vous voulez dire Beyrouth au Liban ou Béroul?
Non, Béroul,
au Liban. Un peu de culture. Un peu de culture ne nuit pas aux grosses têtes.
Oui, mais pas avec les gens d'aujourd'hui.
Mais Béroul, c'est un nom d'auteur ou c'est une ville?
Un verbe.
Béroul, monsieur Vink vous dira exactement de qui il s'agissait.
Le verbe bérouler.
À l'époque, évidemment, on ne sait pas trop parce qu'on est au Moyen-Âge et le roman de Béroul, ça vient de Normandie pour tout vous dire. Et c'est un conte, une légende que tout le monde connaît.
Il y a un truc à manger dans la
comme Peau d'âne.
Alors, pas Peau d'âne.
Le petit poussé
non plus. Une légende qui a traversé les siècles, connue donc au départ sous le nom de roman de Béroul.
Les trois petits cochons.
Non, mais comme évidemment c'était en vieux François, comme on dit. Cela a été ensuite réécrit dans une version en français moderne par Joseph Bédier au début du XXe siècle.
Barbe bleue ?
Non.
Est-ce que ça a été adapté, cette
par Disney ? Vas-y, va au bout de ta question.
On ne compte pas le nombre d'adaptations, évidemment, tirées de cette célèbre légende d'amour.
Est-ce qu'on raconte ça aux enfants ?
Tristan et Iseult.
Bonne réponse collective. Voyez, monsieur Zink, ils sont un peu moins bêtes qu'ils en ont l'air.
Oui, un peu. Hein.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, bonjour. Peut-être vous pouvez commencer par nous dire qui était effectivement ce fameux Béroul, puisqu'on a connu Tristan et Iseult sous et à travers ce roman de Béroul dans un premier temps.
Ah ben, nous ne savons pas qui était Béroul. Il était aussi inconnu que moi. Et pourtant, il y a des hésitations sur la prononciation de son nom. Tandis que moi, généralement, on prononce à la française et pas Zinc. Et ben, je suis pas plus connu comme pour ça. Hein. Mais en fait, ça.
Alors, Zinc ou Zinc, qu'est-ce qu'on doit dire?
Ah ben, moi, je suis alsacien, on devrait dire Zinc.
Zinc,
Zinc. Pour revenir à Béroul, il n'était pas tout seul. C'est pas la légende a circulé et elle a donné lieu à un certain nombre de poèmes au XIIe siècle. dont un de Bérulle, un d'un certain Thomas d'Angleterre, qui a inspiré des romans allemands, qui ont inspiré Wagner, etc. Voilà.
C'est vrai que la légende de Tristan et Isolde a traversé les siècles. Et,
oui.
Et c'est donc cet écrivain, comme vous d'ailleurs, spécialiste du Moyen-Âge, qui l'a rendu encore plus célèbre, chez nous en France en tout cas, au début du XXe siècle.
Voilà, Joseph Bédier.
Qui a un point commun avec vous, c'est un spécialiste de la littérature médiévale.
Oui, nous avons d'autres points communs, nous sommes tous les deux professeurs au Collège de France et tous les deux de l'Académie française.
Et voilà. Vous avez été élu quand, vous, Michel Tsink, à l'Académie française.
Oh, bon, je ne suis pas depuis très longtemps, j'y suis depuis 2017.
Ah, oui. quand même.
Mais
quand même.
Mais, bah non, mais.
Par les temps qui courent, c'est déjà bien.
Je ne suis pas le plus illustre.
Mais en tout cas, ça nous permet de vous interroger aujourd'hui à propos de Tristan et Isolde. Légende magnifique quand même, il n'y a pas plus belle histoire d'amour, même si c'est à travers un filtre d'amour que ces deux-là finissent par tomber amoureux l'un de l'autre.
Et voilà, c'est le problème, c'est ce qui a beaucoup troublé au Moyen-Âge. D'un côté, ils fascinent, on les admire, ils s'aiment à la vie, à la mort. Iseu, ma drue, c'est-à-dire mon amante, Iseu, ma vie, Iseu, ma mie, en vous, ma mort, en vous, ma vie. Mais comme ils ont bu le filtre, qui n'était pas préparé pour eux d'ailleurs, il était préparé
pour le roi,
le roi Marc. Ils l'ont bu par erreur tous les deux. Et du coup, ils s'aiment parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont drogués, c'est une drogue.
Ah, mais voilà. Et il y a quelqu'un qui leur dit même, vous avez bu votre mort.
Oui, c'est la suivante d'Iseu, qui est responsable du drame, Branguin ou Brangien, qui dit, c'est votre mort que vous avez bu. Parce qu'effectivement, l'histoire tournera mal, mais c'est votre mort spirituelle et éternelle, parce qu'ils vont sombrer dans le péché. C'est un amour adultère. Ça comptait à l'époque. C'est quelque chose de grave. Mais surtout, c'est un amour...
C'est un amour contraint, en quelque sorte.
Un amour contraint. Et du coup, les poètes de l'époque, du Moyen-Âge, citent souvent Tristan et Iseu, moins pour les admirer que pour dire... Moi, j'aime mieux que Tristan, parce que Tristan, il n'avait pas de mérite. Il aimait Iseu parce qu'il avait bu le filtre. Mais moi, je vous aime parce que je vous ai choisi, parce que vous êtes la plus belle.
Oui, l'amour libre, quand on a vraiment choisi d'aimer, parce que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est toucher les ailes des oiseaux. Aimer... Non,
Michel Tsink. On va demander à Marc Lambron, quand il reviendra de l'Académie française, s'il est assez loin de vous à l'Académie. Il est assez loin de vous, Marc Lambron?
Non, nous sommes assis, enfin, presque côte à côte.
Et il est sympa ou pas?
Oh, bah, très, nous sommes très liés, très très liés.
Ah, voilà. faut pas vous séparer, on va vous retrouver un jour dans les fourrés, c'est ça?
Oui,
voilà. Et on va mettre le gant pour protéger votre visage, monsieur Tsink.
Les académiciens ont une épée aussi, après tout.
C'est vrai, oui.
Exactement. Voilà, on nous fait si peu confiance qu'on nous donne une épée pour nous séparer.
On sait jamais.
Et il jouait de la harpe, Tristan. Debout.
Et oui, oui, oui.
C'est peut-être un détail pour vous. Hein.
Il était musicien et poète et ça joue à Trago. C'est une légende d'origine celtique, plus ancienne que le XIIe siècle. Et c'est un personnage qui joue de la petite harpe celtique dont tout le monde savait jouer.
En tout cas, grâce à vous, on en sait plus et on en saura encore plus en lisant votre livre. Tristan et Isolde, un remède à l'amour, c'est un joli sous-titre, un remède à l'amour chez Stock. C'est signé Michel Tsink de l'Académie française.
Merci.
Et c'était le livre du jour.
Envie de dire.
Moi, j'ai adoré Monsieur Tsink.
C'est vrai que Monsieur Tsink, il a fait beaucoup de choses à raconter. Hein.
Ne vous moquez pas de l'école. Et je propose même qu'on prolonge l'interview. Monsieur Tsink de l'Académie. Monsieur Tsink.
Je pense que c'est l'invité mystère le plus sympa depuis le début de cette émission.
Monsieur Tsink de l'Académie française. Vous pouvez me dire au départ, comment s'est née cette histoire de Tristan et Isolde?
Eh bien, écoutez, au départ, il faut savoir que c'est une légende qui remonte à bien loin, puisque quand on voit les écrits de 1543,
je ne sais pas pourquoi vous avez imaginé que j'aurais pu l'imiter.
Parce que vous êtes très bien, j'étais sûr que vous pouviez le faire.
Oui.
Quel est votre prochain livre lié à cette époque médiévale que vous chérissez tant?
Alors,
quelle prise d'otage. On dirait un oncle, un dîner de famille qui dit « Allez, fais-nous, monsieur Tsink. » Mais non, arrête, tonton.
Je suis là pour ça.
Alors, je consacre...
Arrête. C'est ce qu'on va faire. On va l'inviter comme grosse tête, Michel Tsink.
Vous prenez des risques, là. Hein. Vous êtes sûr?
Ah si, oui, moi je suis capable. Alors, là,
on va vérifier son âge, peut-être. non. Mais à l'Académie française, ils sont nommés, ils ont 90 ans.
Il est né en 45, il n'est pas si vieux.
Ah non, il n'est pas vieux.
Pour une grosse tête, pour une grosse tête, il sera même jeune.
Bah oui. Non, mais faut le mettre avec Jean, parce qu'au moins, ils peuvent se...
Se raconter des trucs, oui.
Oui.
On les laisse tous les deux, même en coulisses.
Il faut le mettre avec des gens cultivés.
Non, moi, je vais vous surprendre, mais je souhaiterais que Monsieur Tsing fasse ma première partie au Palais des
Sports. Fais gaffe.
Et je peux te dire que pour chauffer la salle, juste avant d'arriver, ça peut être pas mal.
Allez, chiche,
je vous conseille. Mais gars, pas meilleur que toi.
Justement, vous avez absolument raison. Il ne faut jamais quelqu'un trop bon avant
vous.
Ne soyez pas humiliant avec Monsieur Tsing qui nous écoute.
C'est agréable pour Gade.
Mais non, il faut mettre des gens bons avant vous, toujours.
Ah non, tu es juste ou pas des gens bons.
Il faut mettre des gens bons avant. Oh là là, des gens bons, cadeau, là. J'aime bien mettre des jambons avant moi.
C'est mieux qu'après.
C'est mieux qu'après, ouais.
Vous avez une autre question?
Je vous emmène au Louvre, maintenant.
C'est ça, par on finit pas l'émission d'abord.
C'est l'émission culturelle. Donc.
Et après, on dira que les grosses têtes pas une émission culturelle.
C'est vrai, c'est ce qui se dit. Hein. Je voulais te le dire.
Et ben pourtant, là, au Louvre, vous pouvez voir une célèbre raie. Quelle célèbre raie?
Une raie?
La raie duc.
Alors, moi,
je
ne peux pas faire ça.
Je ne peux même pas de propos. Position.
Vous parlez d'un animal ou vous parlez d'une raie humaine?
On parle du poisson.
Je vous parle de la raie. La raie, c'est la plus célèbre raie du Louvre.
C'est une raie dans le coiffure, peut-être?
Non, le poisson.
Ah, le poisson.
Mais poisson, bande de cons, c'est évident.
Bah, ça aurait pu. Bah, avec
Laurent. Il ne va pas vous poser une question sur une raie du cul. Alors...
Mais non, pas raie du cul.
Mais pourquoi il y en a plein?
La raie sur le côté aussi.
Ah oui, par raie de charme.
Alors,
elle est sur le radeau de la Méduse.
Ah, pas du tout. Non,
elle est sous le radeau de la Méduse.
C'est un des tableaux les plus célèbres de ce peintre.
Il n'y a qu'une raie dessus.
Oui, il n'y a pas qu'une raie, mais comme poisson, oui, il n'y a qu'une raie.
Et des personnages, beaucoup.
Alors, est-ce que c'est une raie cuite dans une assiette ou c'est une raie qui nage?
Ah non, elle est accrochée au mur, la raie.
Parce qu'elle est tricolue.
C'est pas terrible comme déco. Hein. Excusez-moi, mais
c'est pas la raie du 58.
Moi, je n'ai aucune raie accrochée au mur, hein, perso. Hein.
Il y a un chat qui
est accroché au mur aussi.
Non, qui est à côté de la raie, un chat.
C'est un peintre de quelle époque?
Ah bah, c'est un des peintres français les plus célèbres du XVIIIe siècle.
Chardin?
Et c'est Chardin.
Courbet.
Excellente réponse. Excellente réponse de Jean Benigni.
Non mais vraiment? Comment t'as dit? Chardin? Mais Jean et Chardin, tu connais Chumacachine?
Jean du Chardin.
Tu connais Jean du Chardin?
Ah bah, Monsieur Singh, comme il est d'origine alsacienne, il chante du Chardin. Hein,
c'est Jean-Siméon Chardin, si vous préférez.
Oh là là.
Un spécialiste des natures mortes, des animaux. Il peignait des animaux vivants, mais c'était assez surprenant parce qu'il mettait beaucoup de temps à peindre un animal vivant.
Hein, et parce qu'il la raie était morte, donc il ne la peint plus vite.
Oui, la raie, une fois qu'elle n'est plus dans l'eau, c'est vrai qu'elle est souvent
accrochée au mur.
Mais en tout cas, Chardin est célèbre pour sa raie, pour son buffet.
Pardon, mais il n'y avait qu'une raie et un chat sur ce tableau?
Non. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline?
Caroline est en pleine descente, je ne sais quoi.
Mais à mon avis, elle a bu le filtre d'amour, elle ne va pas tarder à nous draguer, là.
Mais qu'est-ce qu'il y a, Caroline?
Elle se pisse de rire.
C'est célèbre pour sa raie.
Votre phrase, c'est Jean-Éric Chardin est célèbre pour sa raie. Après, je veux bien qu'on dise que j'ai des facilités à rire, que j'ai la déconne au bord de la bouche, oui.
Mais excusez-moi, mais Chardin, sa raie, c'est... Enfin, l'arrêt de Chardin.
L'arrêt de Chardin.
Tu habites en raie de Chardin.
Il y a des appartements en raie de Chardin. Moi, j'ai un appartement
en raie de Chardin, c'est très bien.
C'est beau, parce que la décoration en même temps. Ah ouais.
C'est moins cher en raie de Chardin.
Oui. C'est vrai, généralement.
C'est un des tableaux les plus...
Mais pardon, il y a quoi d'autre qu'une raie et un chat?
Ah ben il y a une toile, il y a une nappe, il y a
c'est une nature morte.
Ouais, c'est une nature.
Ok, à part Jean Benguigui dans les grosses têtes, avec humilité et honnêteté, qui connaissait la raie de Chardin?
Non. Moi je te dis, j'y habite.
Quel est le titre du tableau?
Et les autres grosses têtes, soyez honnêtes.
Quel est le
titre
du
tableau? Vous avez entendu parler de la raie de Chardin?
La raie, je vous dis.
Ah, ça s'appelle la raie.
Ça s'appelle la raie. La raie de Chardin.
Voilà. Oui.
Comme la Joconde de Léonard de Vinci. Oui. Voyez.
Et le radeau de la Méduse.
Non, de Géricault.
La trompette de Géricault.
La Vénus de Milo.
Voilà. Moi, je suis désolé, j'aimerais bien briller en société après, mais je ne peux pas arriver en disant ce que vous connaissez la raie de Chardin.
Mais si, c'est classe.
Mais non, mais il faut que ça vienne dans la conversation.
Oui, c'est pas évident.
On va pas me prendre au sérieux.
Aux États-Unis, c'est le lobby. La raie de Chardin, vous pouvez aller la voir au Louvre.
Elle y est tout le temps ou elle bouge des fois?
Non, 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 non.
Elle est tout le temps là.
Non, non, elle est.
Imagine la raie à dîner. C'est,
c'est le tableau le plus célèbre de Chardin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
D'accord.
dise? Et d'ailleurs, la preuve.
Mais Chardin n'est pas très célèbre.
Monsieur, si. Ben, si,
Chardin,
la preuve,
j'avais jamais entendu parler de Chardin.
Monsieur Benguigui, en tout cas.
Oh, mais ça, il est spécialiste
en. Une vraie grosse tête. Oui. Bravo, Jean. Grâce à vous, on a retrouvé Chardin. Une question pour monsieur Yann Poyot qui habite Noisy-le-Grand. Oui, c'est une question qui concerne James Harrison. James Harrison, surnommé dans son pays l'homme au bras doré. Mais pour quelle raison a-t-on surnommé cet homme l'homme au bras doré?
Donc Golden Arm Man.
Si vous préférez, oui.
Quoi, c'est anglo-saxon?
Australien, James Harrison.
Et il fait quoi comme métier?
Ça doit être un sportif déjà.
Un sportif, non.
C'est pas un golfeur?
Non, un golfeur,
il
est, non.
On dit le bras parce qu'il n'en a qu'un?
Non, le surnom exact, si vous voulez vraiment le dire en langue australienne, enfin en anglais, c'est Man with the Golden Arm.
C'est un médecin?
Un médecin? Non, mais on se rapproche.
Mais c'est pas une prothèse, alors?
Non, une prothèse, non.
C'est un kinésie, un masseur?
Non plus, non.
Est-ce qu'il fait des choses incroyables avec ce bras?
Il a fait, oui, des choses incroyables. Oui.
Un chercheur?
Un chercheur, non. Je vous dirais même, peu importe son métier.
Ah bon?
Car s'il est... c'est un homme généreux, c'est plutôt une métaphore, et c'est un homme...
Alors, c'est vrai que c'était un homme généreux, oui.
C'est un philanthrope?
Oui, absolument.
Il a fait un don à une ville ou à quelqu'un?
Alors là, on se rapproche, on brûle même.
Ah, oui.
James Harrison a été surnommé l'homme au bras d'or, l'homme au bras doré, parce que...
Il avait les bras pleins d'argent, il les a ouverts pour le donner.
Ah, c'est mieux que ça, mieux que ça.
Il a vendu son bras?
Presque, oui.
Ah, il a vendu un membre?
Ah, mieux que ça.
Il s'est vendu entièrement lui-même?
Non, 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 mais...
Il a donné son corps à la science?
Pas vraiment, non, non, non. Il vit encore, d'ailleurs, James Harrison.
Il a toujours ses deux bras?
Il a offert son bras à quelqu'un qui n'avait pas
handicapé.
Assez de bras.
Ouais, parce que lui, il en avait peut-être trois.
Un mec, il n'avait que trois bras.
Ça a commencé à 14 ans, à l'âge de 14 ans.
Ah, il a fait des choses?
Il a eu une gangrène?
Non, du tout. Pendant près de 60 ans, il a fait quelque chose qui a valu évidemment sa réputation.
Il jouait au bras de fer?
Non.
Il a créé une association?
Non plus.
Il a peut-être été un peu le Robin des Bois, c'est-à-dire qu'on l'appelait l'homme au
bras d'or
parce qu'il distribuait de l'argent aux pauvres.
Robin des Bras,
non plus. Est-ce que c'était un homme politique?
Un homme politique, non.
Il faisait un don tous les ans?
Pas tous les ans, mieux.
Non.
Plus régulièrement.
Tous les jours. Chaque jour,
toutes les semaines.
C'est un don de lui.
Oui,
c'était
absolument.
Vraiment d'accord.
Mais pourquoi on l'appelle pas l'homme d'or, juste l'homme
pourquoi
au bras,
le bras?
Parce qu'il faisait une chose avec son
Est-ce
bras
qu'il faisait
qui était
des dons
généreuse.
Du sang.
Monsieur James Harrison a sauvé 2 millions de bébés de la mort parce qu'à 14 ans, après plusieurs transfusions, on a compris que son sang avait une particularité extrêmement rare, un anticorps du nom de anti-D. Et en l'administrant, cet anticorps, à des femmes enceintes qui souffraient d'une maladie du groupe rhésus qui attaquait le système immunitaire et pouvait causer la mort du bébé, on pouvait empêcher cette fatalité.
C'est génial.
Et il a donc décidé qu'il donnerait du sang aussi souvent qu'il le pourrait, soit toutes les semaines pendant 60 ans.
Ah oui.
Il a sauvé plusieurs millions de bébés en Australie. Et voilà pourquoi on l'a appelé l'homme au bras doré.
Ah,
excellente
bravo.
Réponse de Joyce Jonathan. C'est beau, non?
Magnifique.
Ouais, c'est très beau.
C'est une belle histoire. On ne donne pas assez son sang. Moi, il paraît que je devrais le donner parce que je suis...
Vous êtes donneur universel?
Oui, c'est ça.
Alors, c'est vrai qu'il faut donner.
Alors, je vais le donner parce que je suis O. Vous êtes O, vous aussi?
Oui.
Ah ben voilà.
Ah ouais, moi, je ne peux pas le donner parce que je prends trop de merde.
Elle est défoncée, elle n'a pas le droit.
Non, mais je veux dire...
Trop de drogue.
Pour dormir, pour le mal de tête.
Ah non, mais ça n'a rien à voir.
Est-ce que ça y est, les homosexuels ont le droit de donner leur sang, là, ça y est?
Mais depuis quand les homosexuels n'ont pas le droit de donner?
Depuis toujours.
Ah non, c'est vrai qu'on ne pouvait pas donner notre sang.
Et à partir d'un certain âge, non plus.
Ah oui, bon. Et toi, ça, c'est les deux. Toi, t'es vieux et pédé. Hein, ça fait beaucoup.
Alors, les vieilles tapettes, tu vois. Anthony, non.
Mais je crois que c'est fini, ça. Maintenant,
je crois que c'est fini, maintenant.
On peut à nouveau donner notre nom. Mais c'était à cause, à l'époque du sida, évidemment. Même si, évidemment, c'était un peu idiot parce que les hétérosexuels pouvaient aussi transmettre via le sida. Mais il n'empêche que dans un premier temps, effectivement, comme c'était une communauté, on va dire, plus visée par
cette maladie. C'est jusqu'à l'année dernière.
Maladie, mais il y a peu de temps encore, effectivement, les homos ne pouvaient pas... donner leur sang. Voilà pourquoi j'ai gardé, on va dire, ce qui fait cette force de la nature pour laquelle on me connaît encore aujourd'hui.
En revanche, on peut donner notre sperme.
On vous a longtemps appelé le bras d'honneur, monsieur.
Non, bah. D'honneur D.O.2N.
Monsieur Ben Guigui, elle a compris, Julie. Bravo, Julie.
C'est joli, le bras d'honneur.
Ça prendrait. Oui.
Une autre question, et ce sera peut-être plus facile cette fois, parce que là, c'était quand même brillant, faut le dire, de retrouver ce bras. Et
c'est Joyce, elle était brillante.
Eh oui. Là, je vais vous parler du coup de l'élastique. C'est MVL qui est capable de vous faire le coup de l'élastique. Mais qui est MVL?
MVL.
Ce sont les initiales de quelqu'un?
Oui, absolument.
Ah, c'est pas le...
Marie-Valérie Lance.
Est-ce que c'est un homme ou une femme?
C'est un homme, MVL.
C'est pas le champion d'échecs, là?
Expliquer.
Si le champion d'échecs français, qui a gagné en de la blitz. Banlieue, là, voilà, il a gagné au blitz.
Exactement, oui. Et il s'appelle Maxime Vachier-Lagrave.
Ah voilà, c'est
incroyable.
MVL.
Vous me cherchez.
Et ça devient n'importe quoi.
Oui, non, mais c'est son vrai nom.
Non, mais moi là, j'arrive pas à faire des conneries. C'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée.
Non, cachée. C'est son nom.
C'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée.
Ouais. Non, mais Maxime Vachier-Lagrave.
Si, il s'appelle comme ça, ouais.
C'est son nom, Maxime. Mmh. C'est notre champion d'échecs monde, chez voilà, nous en France.
Ouais, moi, je demande un changement de nom.
Champion du monde d'échecs.
En blitz.
Qu'est-ce que c'est blitz?
Ça n'a rien à voir avec Michel Singh.
C'était une guerre rapide.
Ça veut dire que
donc j'imagine qu'il met mat en trois coups.
Exactement. Il a été grand maître international à 14 ans, Maxime Vachier-Lagrave.
Oh, dites Maxime.
Il vaut mieux dire MVL.
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 Et le coup de l'élastique, c'est effectivement voilà, une tactique, une stratégie qu'on peut utiliser. Moi, je ne connais pas bien les échecs.
Je connais le coup du berger, moi.
C'est quoi le coup du berger?
Ce n'est pas une vanne.
Oui.
C'est un vrai coup. Oui. C'est mat en trois coups. Mais voilà, vous me demandez pourquoi j'ai des conneries. Quand je dis un truc sérieux,
personne n'y
vous
croit.
Vous regardez avec un air berlué.
Oui, c'est vrai.
Ok, et eh ben va chier.
La grave.
Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Moi, je joue avec Lorraine à Gonfreville-Lorcher. Je connais Gonfreville-Lorcher, c'est pas le roi du Havre. Bonjour Lorraine.
Bonjour Lorraine.
Bonjour les potes. Bonjour Lorraine.
Vous avez 31 ans, Lorraine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis auxiliaire du social.
Auxiliaire dans le social.
En passant par la Lorraine avec mes sabots.
Non, elle fait la quiche, Lorraine.
Oh, c'est bon, ça.
Bonne vanne de Julie Leclerc.
Ben ça, c'est une excellente recrue. Rien à l'essentiel pour Europe.
Ah, ben oui.
Donnez-leur pour vous rattraper, Julie.
RTL, il est bientôt 17h.
Merci, Julie.
Oh, quelle machine.
Mais avant 17h, Lorraine va tenter de savoir lequel de vous six va connaître le mieux les noms qui ont fait l'actualité récemment. C'est le qui fait quoi. Chère Lorraine, vous jouez, peut-être le savez-vous déjà, pour un magnifique séjour dans un hôtel... Côte Ouest. Au Sable d'Olonne, à 4 étoiles face à la mer.
Yeah, wow.
Un magnifique hôtel, décor de charme, le plein air iodé, l'énergie, le goût.
Le plein air iodé.
Le goût de vos envies, buller, flâner, rêver, savourer, s'évader, se détendre, et tout ça face à la mer.
Vous faites ça tellement bien.
Pour respirer, pour s'évader, 3 hectares de parc privé avec forêt et espace vert, offrant tout le loisir de balade au calme. La bibliothèque.
Il y a une bibliothèque.
Oui, la bibliothèque Tsink vous attend.
Vous saurez tout sur l'humour médiéval.
Une plage privée.
C'est Suisse, c'est pas...
Hôtelcôteouest.com pour en savoir plus sur votre séjour pendant 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes. Lorraine, à votre avis, laquelle de mes grosses têtes connaît mieux les noms qui ont fait l'actualité?
Je vais choisir Caroline Diamant.
Mais oui, c'est pas mal. C'est un bon choix, Caroline Diamant.
Excusez-moi, vous n'avez pas du tout envie de partir à Côte-Ouest.
Mais si.
Ah, mais Lorraine, vous êtes très sympathique, mais il y a monsieur Ben Guigui.
Non, pas moi, aujourd'hui je joue pas.
Sa femme mangeait des
crues. Ça va être vous.
Vraiment, Laurent, j'ai besoin d'aide pour aider.
On va commencer par Jean Ben Guigui. Jean Ben Guigui qui était Joan Didion.
Comme Didion.
Didion, si vous préférez.
Joan Didion est un 3/4 de rugby sud-africain qui joue à Toulon.
C'est une romancière américaine.
C'est une femme.
C'était tellement bien fait.
Romancière américaine décédée il y a quelques semaines à l'âge de 87 ans. Ah, Jean Ben Guigui, vous êtes éliminé. Ah, je me tourne vers Joyce, Jonathan. Joyce, qui est Perrine Lafont.
Alors, c'est la fille de Patrice Lafont.
C'est pas toi qui joues.
C'est alors, Joyce qui joue, Gad.
J'ai entendu Gad. Quand tu dis Joyce vite, on dirait Gad.
Perrine Lafont.
Ouais, mais j'aurais dit pareil en fait. La famille Lafont.
Oui.
Non, en tout cas, je suis vraiment Lafont aujourd'hui pour jouer.
Oh, bah alors,
Julie, tu l'as élevé, c'est toi qui l'as élevé, Julie.
Non, Périne Lafont.
L'histoire, il y en a qui l'écrivent et il y en a qui la font. L'enfant caché de Julie et Jean Roucas, c'est parmi nous.
En plus joli quand même.
Alors, je dirais que c'est une ski.
De Roucasserie.
Périne Lafont est championne olympique. Bravo Caroline, de ski en boss.
Il y a que les beaux chutes.
Elle a gagné au Canada cette semaine, Périne Lafont. Oui. Bravo Caroline, c'était pas votre tour.
Ben oui,
mais non, Joyce... alors personne ne m'a laissé jouer là.
Joyce Jonathan est éliminée. Je me tourne maintenant vers monsieur Gad Elmaleh. Vous reconnaissez bien votre nom, hein, monsieur Gad Elmaleh.
Tout à fait, Elmaleh, elle m'ira toujours d'ailleurs.
Alors, Gad Elmaleh, pouvez-vous me dire?
Oui, tout à fait, oui.
Non, c'est Monsieur Zink, là, je reconnais.
Monsieur Zink.
C'est Monsieur Zink qui revient.
Oui, alors.
Pouvez-vous me dire qui est Guillaume Cizeron ?
Ah, bah, c'est très simple, Guillaume Cizeron, c'est celui qui a inventé les ciseaux à couper les cerises. Il est mort, malheureusement, dans un accident d'hélicoptère en 84.
C'est le partenaire de Gabriela Papadakis.
C'est un patineur.
En patinage artistique.
C'est un patineur. En plus, je le savais, je suis bête, je me suis auto.
Ils ont renoncé à l'euro, on les verra quand même, on espère, au JO de Pékin le mois prochain.
C'est sûr que c'est pour faire les JO.
Oui, Papadakis et Cizeron.
Extraordinaire.
Vous êtes éliminé, monsieur.
Papadakis. Bon.
Julie Leclerc. Est-ce que vous pouvez me dire, chère Julie, qui est Tom Holland?
Ah, bah oui.
C'est le fils de François Hollande.
Non.
Yes. Mais elle est éliminée.
Tom Hollande.
C'est pas faux en même temps.
Oui.
Mais c'est Thomas. C'est pas Tom.
Mais Tom. Ouais, mais bon. Ah.
Peut-être que vous, dans l'intimité, vous l'appeliez Tom, mais c'est Thomas.
Tom Hollande. Eh bien, on lui doit la tradition de la galette des rois.
Mais c'est non. Spider-Man.
Star.
Faut vous tenir au courant, Julie Leclerc, ce qui se passe à Hollywood.
En plus,
même.
Vous le demandez de temps en temps, Tom Hollande. C'est-à-dire qu'elle n'écoute même pas les émissions.
Il revient régulièrement. Régulièrement, Tom Holland.
Même quand j'étais à Europe 1, j'écoutais les grosses têtes tous les jours.
Ça t'a coûté cher.
Et après, tu te demandes pourquoi t'as perdu ton travail.
Non, mais je suis sûr que c'est vrai.
Caroline c'est vrai Diamant, Caroline.
Oui. Alors, je, exceptionnellement, je savais tous ceux qui m'ont précédé. Je vous en supplie pour Lorraine, soyez gentils.
Qui est Adam McKay.
Bah oui, c'est simple.
Ben oui. Adam McKay, c'est un acteur américain.
Non.
Réalisé. Attendez, Adam McKay. Il a une houppette.
C'est la tourette, là.
Adam McKay, mon Dieu. Je vais chuter, je vais laisser l'autre con gagner, ça me rend hystérique.
C'est qui ça, l'autre
Attendez,
con
Attendez, Adam McKay.
C'est toi, l'autre con. Mais c'est pas gentil de dire ça.
Non, c'est un sportif, c'est un sportif.
Non, vous étiez pas mal.
Allez. Ah, mais non, c'est le chanteur.
Ah non plus, non.
Bon, bah non, t'as pas trouvé les métiers, là.
C'est le réalisateur du film Don't Look Up.
Oh, je l'ai vu hier, sur Netflix.
Qui cartonne sur Netflix.
Ah, c'est bien pas le carton que ça fait.
J'ai détesté ce film.
Ah, j'ai adoré, ce moi. Film.
Julie, alors franchement...
Elle non plus, Caroline, elle l'a pas aimé non plus.
Mais vous êtes nul.
Moi, j'ai adoré, moi.
Je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé, j'ai le droit ou pas?
Oui, bien sûr.
D'avoir un avis, très bien.
Non.
Alors, ça va être simple. Quand je regarde un film, avant, je le regardais dès qu'il est sorti. Donc, je n'ai pas entendu parler, c'est génial, c'est pas génial, je ne veux pas d'avis. Je regarde et je ne comprends pas au début que c'est une caricature ou que c'est une parodie.
Ah bah
et je
trouve
qu'une parodie, quand elle n'est pas compréhensible dès le début, c'est que soit elle n'est pas assez poussée, soit qu'elle n'est pas réussie. Donc, la deuxième partie est mieux, mais le début, je ne l'ai trouvé pas assez parodique pour être drôle.
Ah oh bah quand même.
Mais j'ai le droit d'avoir un avis.
Non mais
je
t'as
vous
pas
dis
trouvé
pas
ça parodique au début.
Mais moi j'ai rien compris à ce
non,
que
au tout
dit,
début, c'est pas parodique.
On va juste les dix.
Non, pas parodique. Je parle d'un acteur grec qui joue dans le film. Arrêtez de faire comme si vous ne compreniez pas.
Écoutez, Stéphanopoulos.
N'écoutez pas les deux blondes. C'est très réussi.
J'ai pas dit que c'était pas réussi. J'ai donné un avis personnel.
Pacula.
Ça ne concerne que moi.
C'est non mais vraiment.
Non, vous avez aimé Laurent?
Mais bien sûr, vous êtes des rabat-joie comme c'est pas permis.
Ah bon,
c'est ce qu'on peut voir de mieux actuellement sur Netflix.
Parce que Laurent, il a une vie si intense que je l'imagine bien dans son canapé avec un grand écran. Il doit avoir un home cinéma à la maison.
Mais évidemment.
Il doit regarder ça au calme avec un petit chien qui est là à côté.
Un gros chien.
C'est pas ça. C'est que je vois surtout pas mal de films français dans la semaine. Et quand d'un seul coup, quand je vois un truc aussi réussi le week-end, c'est ça vrai. Me fait du bien. Pour Lorraine, une montre RTL. C'est mon grand qui a gagné.
Voilà, bien fait.
Les
grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Une heure encore avec Joyce Jonathan, les deux blondes, Caroline Diamant et Julie Leclerc, Christophe Beaugrand, Jean Benigni et l'homme qui est à fond dans ses répétitions pour le Palais des Sports, Gad Elmaleh.
Une heure encore avec les mêmes personnes.
Ouais, ouais.
C'est interminable. On peut pas changer de.
On est content que vous restiez à Paris là pendant un mois au Palais des Sports.
Ah, moi je suis très content.
Peut-être vous allez pouvoir venir nous voir de temps en temps.
Oui, je vais surtout me préparer un peu mieux à la mission parce que je me rends compte vraiment que je suis totalement inculte et ça me.
Non, il faut tout travailler sur Zinc.
Sur Zinc. Non, mais c'est trop tard.
Non, sur la littérature médiévale.
Alors franchement, être inculte, ça n'empêche pas de faire l'émission, je vous rassure.
Oui, il y a Stéphane Platin.
Et même de l'animer, même. Ça n'empêche absolument pas.
Vous avez raison, je le suis moins d'ailleurs depuis 8 ans après avoir animé cette émission.
Et moins que nous.
Que je l'étais en arrivant,
vous avez raison. Vous aviez la curiosité.
Mais je suis là tous les jours, alors effectivement, la mémoire, la curiosité font que maintenant je vous dépasse largement. Je vais vous demander le nom d'une actrice.
Oui. Ah. Elle est belle.
Pour Alessandro Fioretti. Elle était très très belle.
Elle est morte.
Elle a joué avec Alan Pacula ou pas?
Ah, elle est morte. Je pense qu'il va même vous dire qu'elle est morte en 1730.
Ah, bah c'est sûr qu'elle est morte.
Ah, oui, donc
il ne se permettrait pas de dire elle était belle si elle était vivante.
Eh oui. Très jolie. Il y a des portraits d'elle qui ont été faits par des peintres de l'époque. Il y a même Voltaire qui, à sa mort, scandalisé par le peu d'intérêt et par le fait que peut-être on ait empoisonné cette actrice. Ce serait la duchesse de Bouillon qui aurait fait empoisonner cette actrice.
Elle lui a donné un bouillon de minuit.
Parce que, ben oui, elle couchait avec le compagnon de Mme de Bouillon, vous voyez. Actrice, comédienne française dont vous connaissez le nom, puisque son nom a donné aussi le titre d'un célèbre opéra. Comment s'appelait cette actrice?
La Traviata.
La Traviata. Non.
Est-ce que c'est là quelque chose?
Ophélie?
Non. Opéra
Manon Lescaut.
En quatre actes.
C'est pas Don Juan.
Ça a été une pièce d'abord, une pièce d'Eugène Scribe, qui est devenue ensuite un opéra.
De qui?
Qui a écrit la musique?
Alors je suis pas sûr que ça va vous aider.
Gounod.
Musique de Francesco Cillea.
Ah, livre, c'est italien.
Livret d'Arturo Collotti.
Ah, oui,
est-ce que c'est ta consonance italienne?
J'espère qu'elle est connue, elle, parce que.
Pardon.
J'espère qu'elle est connue, hein, parce que le compositeur et l'auteur du livre.
L'opéra est très connu et la comédienne française aussi. Elle est morte à 37 ans quand même. C'est jeune.
C'est Mademoiselle quelque chose?
C'est pas Mademoiselle quelque chose.
C'est un nom et un prénom.
Est-ce que c'est une muse dans des œuvres littéraires?
Non, mais elle est entrée à la Comédie française.
Elle a une particule.
Voltaire était son ami et il a même écrit pour elle ses quelques vers célèbres et un poème qui porte aussi son nom, d'ailleurs, la mort de...
Adrienne Lecouvreur.
Adrienne Lecouvreur, excellente réponse. Opéra, effectivement, en quatre actes, qui s'appelait Adriana Lecouvreur, mais l'actrice en question au départ s'appelle Adrienne Lecouvreur. C'est une histoire vraie qui a été adaptée en opéra. Excellent. Jean Benguigui, une fois de plus, aux grosses têtes.
RTL, 6 grosses têtes, 5 tech news.
Ah, c'est Stéphane qui joue avec les grosses têtes maintenant, 35
ans.
Oui,
bonjour.
Non.
Ah non, 35 ans, c'est pas moi.
À Salon de Provence. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Laurent, bonjour grosses têtes et bonne année à tous.
Ah bah bonne année, c'est vrai. Bonne année.
Bonne année.
Bonne année.
On s'est pas dit bonne
année.
Bonjour
public du grand studio.
Un séjour à la montagne d'une semaine en pension complète pour 4, 2 adultes, 2 enfants. C'est pour vous peut-être Stéphane, avec la location des skis dans les beaux domaines des Alpes ou du Jura. Vous choisirez votre village vacances et votre appartement sur milleade.com. Milleade propose des animations en journée, en soirée, l'accès illimité aux piscines et aux spas des établissements, sans compter les clubs enfants. On pourrait fourrer les mioches dans le club en allant skier.
Oh, heureusement que vous n'avez pas fini.
On ne fourre pas les mioches, Laurent. Non, l'expression est un peu maladroite.
Les clubs Jean-Luc Lair restent ouverts.
Oh non, non, non.
Stéphane, vous êtes toujours là?
Oui, oui, bien sûr, ben, je vous écoute. Hein.
Ben,
vous
L'énergie de Stéphane, il y a une énergie, j'aime bien ça.
Il va surtout falloir écouter mes grosses têtes qui vont vous raconter un moment de leur vie, de leur carrière, leur CV, leur parcours. J'espère que vous connaissez bien leur parcours professionnel. 5 grosses têtes vont vous mentir, une seule grosse tête va vous dire la vérité. On commence par Joyce Jonathan.
Les paroles de ma chanson « Je ne sais pas » ont été écrites par Caroline Diamant.
Ça, c'est pas gentil.
Je ne sais pas.
Julie Leclerc.
Oui. Alors, avant Antoine et Patrick Topalov, dont on a beaucoup parlé ici.
Non, on n'entend pas.
J'ai eu une aventure avec un des compagnons de la chanson. Les 8 autres étaient déjà pris par Caroline Diamant. Mais c'est sa fête aujourd'hui, hein? Mais c'est bien, Caroline, qui est la star de l'émission.
Si seulement.
Les Caroline Diamant, c'est à vous.
Ils étaient que neuf dans les compagnons de la maison.
Ils étaient neuf, ouais.
Ils étaient neuf.
C'est pas dans mon souvenir.
Ils étaient neuf au, ils étaient neuf au début.
Ils ont dit... Alors, j'ai quitté le monde de la chanson quand ma fille avait 12 ans et que mon employeur a voulu que je m'occupe de Jean-Luc Lahaye.
Il y a une thématique, donc.
Gad Elmaleh.
J'ai été le cuisinier d'Al Pacino. J'ai tourné dans un film avec Daniel Craig, réalisé par Steven Spielberg. Et j'ai été dirigé par Woody Allen.
Jean Benguigui.
Oh, la classe.
Mon prochain rôle au cinéma... Et le rôle d'un entraîneur de basket.
C'est fini ou pas la brève?
Qui met son nez dans les affaires de ses joueurs.
C'est n'importe quoi.
C'est bien dit.
Et on termine par Christophe Beaugrand.
TF1 a proposé aux candidats à la présidentielle de participer à un numéro spécial de Danse avec les stars plutôt qu'un débat avant le premier tour. Pour l'instant, il n'y a que Anne Hidalgo qui a dit oui.
Non mais quelle est la vraie là? C'est impossible.
Alors Stéphane, qui a dit la vérité?
Je vais faire confiance à Gad Elmaleh.
Et oui,
parce
on
que
a.
Ma compagne l'aime beaucoup, donc voilà.
Ah, il vaut pas trop.
Ouais. On a une vraie vedette ici, effectivement.
Même moi, quand je l'ai lu, j'avais l'impression de lire un truc qui n'était pas vrai,
il
je te jure.
Il a effectivement sans joué blague. Avec Al Pacino. Oh il a tourné avec Daniel Craig dans un film de Spielberg. C'était Tintin, hein, c'est
ouais,
ça.
C'est ça, ouais.
Et il a été dirigé par Woody Allen.
Pour finir, face à Caroline Diamant.
Bravo, Gad Elmaleh. Bravo, Stéphane.
Merci beaucoup.
Bravo Stéphane, c'est cool, bien joué.
Avec Al Pacino, vous avez eu des vraies scènes.
J'ai eu non seulement des vraies scènes, mais j'ai vécu un truc incroyable avec lui. Il a été quasiment obligé de me parler pendant toute une journée parce qu'on tournait une scène dans un hélicoptère et pour des besoins techniques, l'hélicoptère était suspendu au plafond du studio et on ne pouvait pas descendre pour la pause déjeuner, on ne pouvait pas descendre pour aller aux toilettes. Donc il a été obligé de rester avec moi pendant 9 heures dans un hélico.
Ouais.
Et au départ, je n'osais pas trop l'aborder.
Ça m'est arrivé avec Michel Drucker.
Ben oui. Non, sauf qu'il était en train de le piloter, j'imagine. Non, c'était.
Non, mais un hélico, ça peut rester 9 heures en l'air.
Mais non, mais
t'as pas écouté.
Elle ne comprend rien.
Parce que généralement, dans un studio, on ne fait pas démarrer l'hélicoptère.
Non, c'était suspendu. Il était suspendu. C'est un vrai hélico suspendu, c'était un décor quoi.
Mais on pouvait bien vous faire descendre parce que restait 9 heures.
Non, on ne pouvait pas descendre de l'hélico.
On
pouvait pas, c'était très haut, c'était filmé en contre-plongée de et donc on est resté pendant.
Il y a rentré dans cet hélico.
Écoute-moi bien, Julie. Écoute-moi.
Non, alors explique parce que si vous êtes entré dans l'hélico, vous pouvez en sortir à tout moment.
Oui, mais c'était très très long de rentrer dans cet hélicoptère. Ça prenait une heure pour y accéder. On ne pouvait pas partir et revenir. Donc on a passé beaucoup d'heures dans l'hélico sans en sortir.
Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'attente.
C'est comme dans Titanic, hein, ils ne pouvaient pas aller faire pipi.
Comment ça, ils ne pouvaient pas aller faire pipi?
Bah, sur toutes les scènes où ils sont dans l'eau, les scènes de naufrage.
Ah bah, ils pouvaient faire
pipi dans l'eau.
Oui,
ça réchauffe en plus parce qu'elle était froide.
Oui, mais ça a changé la couleur de l'eau.
Elle était froide.
Quel rapport avec Gad Elmaleh?
Il a dit qu'on ne pouvait pas aller faire pipi pendant 9 heures.
Ah ouais, vous avez fait pipi.
Oui, mais moi, je ne pouvais pas pisser dans l'hélico.
Alors, comment vous avez fait pour tenir?
Vous avez fait pipi comment?
Il y a des jours où je pisse pas, voyons.
Ah bon, mais pendant 9 heures.
Moi, je suis sûr que vous avez fait pipi dans une petite bouteille.
Non, même pas.
Oh. Ah bon?
Comme les cyclistes.
Ouais, ils font ça.
Comme les cyclistes.
Et donc, vous avez
parlé. C'est fou parce que
cette
anecdote a fait rêver des millions de gens à chaque fois. Je me retrouve avec une équipe aux grosses têtes totalement sceptique qui remet tout en question. Appelez-moi Monsieur Tsink.
Et Daniel Craig, vous aviez des scènes avec Daniel Craig?
Oui, j'ai eu 2 scènes avec lui. Ouais.
Il est sexy, il est sexy.
Il est beau gosse, mais comme il avait une combinaison de motion capture, vous savez des...
Ah oui, Tintin, c'était en motion
capture.
Oui,
donc il avait des capteurs partout avec une combinaison de plongée, on avait l'air con. Et d'ailleurs, ça m'a mis à l'aise quand je l'ai vu, je dis ce grand beau gosse avec cette combinaison, ça va, j'ai pas l'air totalement... Allez, on y va.
Et il est sympa?
Oui, très sympa. Il a l'accent du Sud puisqu'il vient, comme tout le monde le sait, Daniel Craig,
il vient de Marseille.
Son vrai nom c'est Bouillou.
De
Carrey-le-Rouet, voilà.
Jean-Claude, il s'appelle.
C'est Jean-Claude Craig, en fait.
Jean-Claude, alors.
En tout cas, ça le fait, hein, quand même. Cuisinier d'Al Pacino.
Ah oui, c'est la classe.
Même si c'était bloqué dans un hélicoptère. Daniel Craig, Steven Spielberg, Woody Allen. C'est bien le CV de Gad Elmaleh. Bravo, Stéphane.
Bravo, Stéphane.
Vous partez à la neige.
Bonnes vacances.
Une question pour Patrick Bouteiller qui habite Stambert en Belgique. Ah oui. Où est-on sûr?
Oh, dis donc, c'est beau la Belgique.
Nos amis belges,
ça fait longtemps. Ça, on aime bien. Ça, c'est un beau pays.
Oui. On a été reçus.
On était bien. On a ri.
Le bourgmestre.
Oh, le bourgmestre de Bruxelles. Tu te rappelles quand on est allé saluer à la terrasse? Là, il n'y avait personne. Alors, c'est quoi votre question en Belgique, là, dis donc? Hein, allez, au bout de cette question.
Ma question n'a rien à voir avec la Belgique.
J'ai un sentiment partagé. Je vous aime. soirée, mais j'en ai marre. Je te jure, c'est, écoute-moi, j'ai un truc où je ne sais pas comment le vivre. Je suis heureux d'être là et en même temps, je me dis, je vais rentrer. J'ai envie de voir mon fils.
Et encore, je n'ai pas chanté le grand Jojo. Hein.
Non, mais je...
Est-ce que tu connais le grand Jojo ou pas?
Non, arrête.
Non. Le grand c'est Jojo quoi, le est mort Jojo. Quelques jours après que tu aies chanté sa chanson.
Oh oui, bah du coup, je peux le chanter, il est déjà mort.
C'est vrai en qu'il plus est mort. Je...
Mais c'est qui ça?
Il est mort après nous.
Il est mort il y a quelques semaines, le grand Jojo. Il chantait quoi déjà?
Jules César, on l'appelait Jules César. Il mettait pas de falzard pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Voilà.
C'est le grand Jojo.
C'est vrai.
C'est une star belle.
Il y a une lueur très inquiète dans le regard de Gad Elmaleh, je trouve.
Je peux rentrer avec vous?
Chef, une petite guerre, on a soif. Chef, une petite guerre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. On a soif. On a soif. Voilà.
C'est la compile du grand Jojo.
Moi, quand on m'a proposé de faire les grossettes, je me souviens la première fois, le producteur de cette émission m'a dit, et puis vous aurez un cachet et très seigneur, très classe. J'ai dit non, non, je m'en fous, moi je viens pour le plaisir. Laurent, je veux un cachet.
L'aspirine.
Ah, moi, je prends toujours un cachet avant, après et pendant. Pour Patrick Bouteillé, qui habite donc en Belgique, à Stamberg.
Ah oh oui, c'est ça, Stamberg.
Voilà, ouais.
Où est-on sûr de trouver 2000 euros par jour?
2000 euros.
Au tirage du loto.
Dans un jeu?
Dans un jeu, non. Où est-on sûr de pouvoir trouver à peu près 2000 euros par jour?
Alors, et les prendre? On peut les prendre?
Alors, si on est malin, oui.
Est-ce que c'est virtuel?
Ce n'est pas virtuel.
Est-ce que
ce
sont au Monopoly?
Au Monopoly.
Dans une église?
Dans une église, non.
Est-ce que ce sont des pièces?
Oui.
Bravo, monsieur.
2000 euros.
Donc, c'est une machine dans laquelle on met des pièces. Ah, peut-être la fontaine de Trévi?
Excellente réponse.
Bravo.
Formidable, c'est magnifique.
On les connaît, les radins.
À Rome, dans la fontaine de Trévi.
Mais il y a des gens qui les récupèrent?
Oui, chaque jour. Chaque jour, chaque soir, on récupère. Mais c'est la ville qui fait ça.
Ah oui, le soir, à mon avis, il y a des gens
ils font ça très très vite, le
t'as
soir.
2000 ouais, c'est pas mal. Hein.
Et oui, bah, ça attirait trop la convoitise, alors évidemment...
Il y a des plongeurs.
On s'est mis...
non, oui, mais, les gens que tu voyais avec un masque Décathlon oui, autour de la fontaine de Trévis...
Non, les gens arrivaient avec un aimant...
ah bah oui,
un aimant attaché au bout d'une ficelle et voilà, ils essayaient chaque jour de ramasser le plus de pièces de monnaie possible.
Ça vaut la peine de faire ça comme boulot à plein temps.
Sauf que maintenant, c'est fini parce que les autorités effectivement ont décidé chaque soir de ramasser à peu près 2000 euros.
C'est dommage.
500 kilos.
Tu viens, ah oui.
500 kilos.
Ah oui, bah 500 oui. kilos.
2000 euros, ça fait 500 kilos.
Oui, oui et ça fait 280 litres. Et en mètre carré, loi carré,
si
c'est à peu près.
Si tu mets une jupe et que tu, dans ton ourlet est entièrement plombé d'aimant.
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Mais il faut que tu marches dans la fontaine.
Tu veux aller dans la fontaine avec une jupe pleine d'aimant, mais t'arrives jamais à sortir. Tu fais 500 kilos. Pas de vie.
Ça fera 600. Et alors, c'est reversé à une association caritative catholique, Caritas. Vous voyez, c'est pour une...
C'est versé au pape, après.
Non.
Une bonne œuvre, donc. Chaque matin, j'ai dit que c'était le soir, et en fait, c'est chaque matin.
Ah oui, donc on peut le faire la nuit, du coup.
Avant l'arrivée des touristes, la circulation de l'eau est coupée, la fontaine est nettoyée à la brosse, et les pièces sont rassemblées en un long serpent, et à l'aide de longues perches, on les aspire sous la surveillance de la police. J'imagine qu'on fait la même chose à Paris aussi, c'est... aux colonnes de Buren, parce que les gens jettent des pièces aussi.
Oui, moi j'en ramasse quelques-unes de temps en temps.
Dans les jardins du Palais Royal. Oui. On devrait mettre une petite fontaine comme ça à l'entrée de RTL. Si vous avez ri, mesdames et messieurs, on passera un chapeau à la fin de l'émission.
Ah bon, en tout cas, Jérusalem, ils sont moins cons. Dans le mur, ils mettent des petits papiers. Qui va voler des petits papiers?
Non, des chèques en blanc.
À part Régine.
Bah oui, mais justement.
Laissez passer les petits papiers.
Oh, elle a passé de voix.
Papier de riz ou d'Arménie.
Ah non, tu l'as fait mal.
Ah bah non, non, au contraire, il lui arrange la voix.
Oh non.
Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche.
Elle chante
ferme
ça, les
ça n'existe pas. Ça.
Si les mouches chantent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche. Ferme les yeux.
C'est Serge Gainsbourg.
Ah, oui.
C'est Serge Gainsbourg qui lui, a écrit cette chanson, comme il avait écrit les sucettes à l'Annie pour France Gall.
Mais Régine, elle comprenait.
Oui. Je pense même qu'elle a inspiré la chanson.
Elle a aspiré la chanson.
2000 euros par jour à la fontaine de Trévis. Vous voyez, vous devriez passer chaque matin. Vous y gagnerez plus qu'en venant à Neuilly aux grosses têtes. Une question pour Claude Chambre. Il habite à Grand-Bourterouille.
À côté de Rouen.
Grand-Bourterouille, c'est dans l'Eure.
Oui, Macron est allé là-bas.
Exact. Mais là, je vous emmène à Saint-Étienne. Vous voyez, loin de l'Eure. À Saint-Étienne, il y a tous les deux ans un festival de musique, une biennale consacrée à un compositeur qui est né, évidemment, à Saint-Étienne.
Bernard Lavilliers.
Non, à Montaut, précisément, qui est un quartier de Saint-Étienne. Quel est le célèbre compositeur français, stéphanois, à qui on consacre une biennale à Saint-Étienne ?
Massenet.
Jules Massenet. Bonne réponse de Julie Leclerc. Mais c'est vrai que vous êtes stéphanois.
Eh oui, Saint-Étienne, moi, je suis née là-bas.
Enfin, une bonne réponse de Julie.
Tout à l'heure, j'ai eu une bonne réponse. Il n'a même pas dit bonne réponse de Julie.
C'était quoi, Julie ?
C'était quoi, déjà ?
Quand vous avez donné l'heure ?
Non.
Non, même là, c'était...
Jules Massenet, enfin, si vous habitez Saint-Étienne...
Le grand-père d'Ariane Massenet.
Exactement.
C'est vrai,
ta famille,
C'est effectivement grand-père, je ne suis pas certain.
Non, l'arrière-grand-père.
Enfin, c'est de la famille, quoi.
Pour répondre à votre question, Jules Massenet, l'arrière-grand-oncle d'Ariane Massenet. Voilà. Ah, oui. On est loin du grand-père.
Ben oui.
Mais j'ai une question maintenant très culturelle, avant l'invité mystère, pour Jacques Perry, qui habite Paris 18e. Je vais vous demander quel est le nom de ce personnage, qui est devenu d'ailleurs un nom commun, mais qui était donc un nom propre au départ, qu'on trouve dans la pièce Amphitryon, que ce soit celle écrite par Plaute vers 187 avant Jésus-Christ, ou dans celle écrite par Molière au XVIIe siècle. Quel est le nom de ce personnage qui est devenu un nom commun ?
Tartuffe. Sosie.
Pardon ?
Sosie.
Sosie. Excellente réponse de Jean Benguigui.
Oh, mais qu'il est fort.
Bravo. Ça rappelle les cours de théâtre.
Ah non, mais monsieur Benguigui, aujourd'hui, c'est pas si c'est parce que nous sommes filmés par les caméras de Paris Première. Mais alors, vous avez. D'habitude, vous brillez. Oui. Mais là, vous avez ultra brillé.
Merci. Ah ouais,
on est très impressionnés.
Ultra, ultra bright.
Vous mériteriez.
Il a tout donné.
Vous mériteriez que votre femme vous fasse une choucroute ce soir.
Moi, j'ai eu peur.
Et pas un jus de
fumée. Moi, je pense qu'il mériterait même, si jamais le public a suffisamment la pêche, mais une standing ovation.
Ah non, 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 non. Après, les mecs, ils prennent la tête, ils rentrent plus. Non. Je vais être. Invité dans un truc prestigieux.
Je veux rester simple.
À une radio, je ne sais quoi.
Et puis debout, on n'a plus le droit debout.
On n'a plus le droit.
Ah oui, bah restez assis.
Alors, de toute façon, les gens assis, c'est déjà une standing ovation pour Jean.
Ouais.
Alors, Sosie, en tout cas, est un personnage, effectivement, d'Amphitryon, un esclave dans cette pièce. Et il prend, effectivement, l'apparence d'un autre personnage. Et au départ, c'était le nom du personnage. Ce n'était pas, effectivement, le nom commun qu'on connaît. C'est ensuite que c'est devenu...
intéressant, je ne savais pas.
Le nom commun, hein, Sosie. Et vous avez un Sosie, vous, Caroline Diamant, vous avez déjà rencontré votre Sosie.
Marine Le Pen.
Ah non, mais il y a du France Gall. Non, non, c'est France Gall.
France Gall.
Ah oui,
ah oui, France Gall.
Ah, moi, je
en 16-9e.
Alors, moi, j'ai vu un enfant de 5 ans tout nu et j'ai vu le sosie de Tabouk.
Joyce, on vous confond parfois. Vous avez un sosie que vous avez déjà rencontré.
Alors, on m'a dit Virginie Ledoyen, mais je trouve pas vraiment.
Ah, si.
Il y a quelque chose.
Ouais. Vous, Jean, c'est Danny DeVito, évidemment.
Des fois, les Américains sur les Champs-Élysées me demandent des autographes, ils me prennent pour Danny DeVito, alors que je suis beaucoup plus grand que lui. Ouais.
C'est vrai qu'il est beaucoup plus grand que
Danny. Et vous,
Danny Gad,
ça vous arrive ?
Moi, on me confond souvent, et c'est pas une blague, avec moi-même. C'est-à-dire qu'on me dit, on dirait Gad Elmaleh, on me le dit tout le temps. Et
ce qu'il faut faire. Voilà. C'est ce qu'il faut faire.
Comme dans le film.
J'ai dit oui, mais oui, je ressens beaucoup, mais je suis bien content de ne pas le connaître parce que c'est un con, tu vois.
Voilà, c'est ça.
Alors les gens là, ils démarrent, oui, moi je pense.
Ce qui me fait rire, c'est les gens qui viennent vous voir, qui vous disent ah, vous êtes Laurent Ruquier, hein, je vous avais pas reconnu.
Ça, c'est formidable.
Ça, c'est génial.
Ah non, j'ai eu un truc sympa un jour. Vous savez à quoi je vous ai reconnu ? Je dis non, et il m'a dit à votre visage. j'ai dit, ben heureusement, parce que le reste...
Et vous, Julie Leclerc ?
À une époque, on me prenait pour Christine Bravo.
C'est pas vrai.
Quand elle était jeune, alors. Parce qu'aujourd'hui...
Qu'est-ce qu'elle devient, Christine Bravo?
Oh là, on attend son retour la semaine prochaine.
Ah, elle est partie au Mexique.
Croyez-moi, il y a des anecdotes à la clé. Hein.
Oh, là là.
Oh là là, si vous saviez les coups de fil, les machins qu'on a pu avoir pendant les vacances. Oh là là, un feuilleton.
Mais pourquoi elle est où?
Elle est où?
Elle est en Thaïlande. Elle a confié sa péniche à Jean-Philippe. Alors là.
Oh là là, c'est vrai?
Et alors là.
Elle a confié sa péniche à Jean-Philippe.
Oui, il est sur la péniche là?
Non, justement. Alors Jean.
Il l'a coulé.
La suite de ce feuilleton, mesdames et messieurs, ne ratez pas ça.
Qui vit sur une péniche, Christine?
Christine, bravo.
Bravo, vit sur une péniche.
Oui. Elle l'a prêté à Jean-Philippe. Et à son pénis.
Mais Christine Bravo vous confie une mission, mais jamais dire oui.
C'est ce que
mais
je lui ai dit.
Pour garder des
mais je lui ai dit à Jean-Philippe.
Ah ouais. Mais ça va être des emmerdes.
Ah mais c'est ce qui s'est passé.
Ah alors.
La suite du feuilleton la semaine prochaine.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Ah oui, on va chercher qui est l'invité mystère. Pardon de vous avoir fait patienter, invité mystère. Vous êtes bien installé, j'espère.
Très bien.
Voilà, vous avez l'air très sérieux. Vous êtes un garçon sérieux.
Plutôt.
Vous êtes un garçon.
Oh oui.
Plutôt.
Certains soirs.
Je vous ai déjà vu en femme.
Ah bon. C'est vrai.
Ah bon.
Ah, est-ce qu'il est beau en femme?
Pas mal.
Il est mieux en homme.
Ah, je crois que vous allez dire il est mieux en femme, c'est un peu gênant.
Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère?
Oui.
Est-ce que vous êtes brun?
Non.
Blond?
Non.
Chauve?
Non.
Châtain?
Roux?
Châtain.
Voilà.
Châtain, il y en a plein.
Grisonnant.
Ah, ça commence grisonnant. à grisonner
un peu. Faites-vous des shampoings colorants.
Est-ce que vous portez un pseudonyme?
On n'est pas au téléachat, Julie Leclerc.
Elle va vendre des régés colorants, ça n'existe plus depuis 1940.
Mais elle l'a fait longtemps, le téléachat. Hein.
Je sais.
22 ans, le téléachat.
22 ans?
Il doit lui rester des régés colorants plein les tiroirs, voilà pourquoi.
Invité mystère, est-ce que vous vous déplacez à vélo dans Paris?
Non.
Vous habitez à Paris ou pas?
Non.
Est-ce que vous portez un pseudonyme?
Non.
Invité mystère, est-ce que vous pouvez faciliter un peu la tâche? Ça fait 2h30 que je suis là, j'en peux plus.
Qui êtes-vous?
C'est Gad Elmaleh.
Est-ce que vous pouvez énoncer votre nom?
J'arrive, Gad.
Voici un premier indice musical. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Ah, on adore, ah, on y est, n'est-ce pas, invité mystère?
J'avoue que je ne comprends pas.
Ah, si, c'est un lien avec votre actualité pour laquelle vous venez tout de même.
Ah, actualité, il n'habite pas là-bas, il n'habite pas à New York.
Il faut tout leur expliquer aux invités.
Non, mais si même l'invité ne trouve pas, c'est que...
Bon, vous n'étiez pas à New York pour les fêtes avec Laurent Ruquier?
Non.
Est-ce que vous êtes marié?
Je ne sais plus les règles de ce jeu. Tu peux demander, par exemple, j'ai un métier, je peux dire, est-ce que vous êtes un...
Après le premier indice.
Vous pouvez.
Vous êtes écrivain?
Non.
Vous êtes chanteur?
Non.
Est-ce que vous êtes artiste?
Oui.
Vous êtes comédien?
Comédien.
Ah bah voyez que c'était pas un si mauvais indice parce que Jean Benguigui vous a déjà identifié.
Oh, mais qu'il est fort.
Mais attendez, mais.
Mais c'est sa tournée là.
C'est incroyable.
Il est dopé.
Grâce à New York, c'est incroyable.
Machine de guerre.
Vous êtes sur scène actuellement?
Bientôt.
Est-ce que vous êtes plutôt un comédien qui suscite l'hilarité de vos contemporains?
J'espère.
Mais pas seulement, ou plutôt si vous êtes plutôt rigolo?
Les deux.
Voici un deuxième indice musical. La musique culte d'une célèbre comédie romantique que peut-être vous avez reconnue, invité mystère. C'est un deuxième indice difficile encore, mais on est au début des indices, c'est normal.
Vous avez joué dans des films ou vous êtes surtout sur scène?
Les deux,
très bien.
Est-ce que vous connaissez Monsieur Tink
de l'Académie française?
Pour avoir suivi. Hein.
Alors, invité mystère, est-ce que vous, en plus d'être acteur, est-ce que vous êtes... réalisateur et ou scénariste?
Non.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui.
Est-ce que vous en voulez d'autres?
Tu te proposes?
Non.
Oui, parce qu'il est en pleine période d'ovulation. Bah, ouais. Allez-y.
Vous pouvez aller là. Peut-être suffisamment déjà, vous en avez combien?
Trois.
Ah oui,
invité mystère, est-ce que vous chantez également? Savez-vous chanter?
Non.
Est-ce que quelqu'un d'autre de votre famille, vos enfants, votre épouse ou d'autres membres de votre famille pratique également un métier public?
Oui. Ah. Mon homonyme.
Votre homonyme?
Mais qui n'est pas de votre famille?
Si, on a le même nom.
J'ai une idée.
Gad Elmaleh propose Arthur Juniau. Êtes-vous Arthur Juniau?
Non.
Voici un autre indice. So hello, my darling. I've come for you. You are the answer. You know it's true. I've raised a shadow. Cast on our moon. La chanson d'un film, là encore. Un film auquel vous avez participé, évidemment. Christophe Beaugrand propose Philippe Lelouch. Êtes-vous Philippe Lelouch?
Non.
Pour l'instant, seul Jean Benguigui vous tient, si j'ose dire. Ah,
ça vous plaît?
Invité mystère.
Alors, si Jean Benguigui sait qui c'est, donc, alors, il faut aller dans une autre direction.
Une autre génération, peut-être.
Une autre génération.
Ah non, vous êtes...
Non, mais il est jeune, moi, je pense
que vous êtes
jeune.
Plus jeune que Jean Benguigui.
Oui.
Bah, c'est
tout
pas facile.
Tout le monde, à peu près, oui.
Tout le monde.
Et d'ailleurs, quel monde on va laisser à Jean Benguigui?
C'est vrai que je suis le doyen de cette émission.
Alors, attendez, on va se... Est-ce que vous avez... Il y a un rôle qui vous a particulièrement marqué, que le public connaît?
Oui.
Ah oui, on y viendra, mais ce n'est pas encore temps pour cet indice. En voici un autre d'abord. C'est Nolwenn Leroy qui chante en breton, hein, vous l'avez compris, évidemment.
Ok, alors je pense que je l'ai.
Alors voilà.
Donc vous êtes breton.
Voilà,
vous êtes breton
d'origine.
Un peu plus fort, évidemment. Caroline Diamant vous a identifié. Bravo, Caroline. Ça fait déjà deux grosses têtes.
Ok, donc ça se sait que vous êtes breton et vous avez un nom à consonance bretonne?
Oui.
Julie Leclerc vous a identifié elle aussi.
Oh
bravo,
là là.
Julie Leclerc.
Ah, elle est fière. Hein, elle est
je suis fière. Hein, oui, là.
Voici
ah, oui.
Encore un indice pour Gad Elmaleh, Joss Jonathan et Christophe Beaugrand. Mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre. Ah ben là, vous avez chanté pour le coup. C'était dans le film de Fabrice Eboué, n'est-ce pas, invité mystère?
Absolument, un super film. Que
c'était très très drôle ce film.
Julie. Caroline, Jean-Benguigui, trois grosses têtes sur six, les trois autres ont l'air de sécher lamentablement.
C'est d'en coexister, c'est ça?
C'est ça.
Je dégaine le dernier indice fatal.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, à tata, prout-prout cadet, à cheval sur mon bide. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, à tata, prout-prout cadet.
Vous avez déjà joué avec Gad Elmaleh, invité mystère?
Non, j'aurais adoré.
Ben heureusement.
Mais l'avenir nous appartient.
Ouais, bah c'est pas gagné parce qu'il se dirait, il vous retrouve pas.
Non,
voyez.
Moi je ne vois pas vous, mais votre nom. C'est parce que vos indices sont complètement délirants.
Ah bah le dernier.
Vous m'avez vu au théâtre, Gad.
Mais oui, on ne connaît que vous.
Le dernier, il est facile.
Vous êtes toujours bien habillé, toujours chic. Vous avez toujours un petit pull et tout. Voilà. Oui. Le nom me revient
c'est
pas.
C'est pas la peine d'insister, c'est très désagréable.
Mais non, je l'adore en plus.
Vous avez toujours une petite lèvre.
Non, il n'a pas toujours un petit pull, mais je le vois. Mais
c'est débile.
Bon, ben, un petit cachemire.
Dans ma tête, vous avez un petit pull. Voilà,
un petit cachemire.
Moi, je trouve que c'est sympathique, une carrière résumée.
Un pull.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, invité mystère.
Pardon, je suis désolé.
Voilà un acteur avec un petit pull.
Non, pas bien fait de venir.
Vous tournez à Sèvres, j'habite à Sèvres.
Je me tourne.
Non, mais ces indices sont fou.
Non, non.
Il y a New York, la Bretagne, un petit pull, c'est difficile quand même.
Ça, c'est ma faute, ça, pardon.
Je me tourne vers Jean Benguigui, Julie Leclerc et Caroline Diamant, notre invité mystère, c'est
Guillaume de Tonquédec.
Eh oui, Guillaume de Tonquédec, évidemment.
Et voilà, de Tonquédec, c'est ce que je voulais dire, un petit pull.
Guillaume de Tonquédec était bien notre invité mystère.
Pardon.
Quand même. C'est pas
tu
si.
Peux pas dire pardon.
À la limite, il y aurait eu des indices clairs. Tu dis pardon.
Moi, ah, mais si, parce que je savais qui c'était.
Fais pas ci, fais pas ça quand même. Ça vous dit rien. Fais pas ci,
oui,
fais pas ça.
Série, oui, mais non. Ah bah alors, New York, le pull, tout.
Bah, il a un petit pull. Hein.
Alors, New York, ça c'était plus difficile. La preuve, c'est que même Guillaume de Tanquédec ne se rappelait plus que sa pièce s'appelait Times Square. Puisque c'est le titre de la nouvelle pièce que vous allez jouer au théâtre Montparnasse. Times Square, c'est à partir du 22 janvier, avec trois comédiens. Vous êtes quatre dans un appartement américain, si j'ai bien compris.
C'est ça, oui. C'est une pièce écrite par un Français, mais qui se passe à New York. En fait, c'est un comédien qui a eu son heure de gloire et qui s'est mis à accepter des choses, disons, plus commerciales, qui perd le goût de la vie, le goût de jouer. Et heureusement, il a un grand frère qui veille sur lui, qui va lui mettre entre les pattes, si j'ose dire, une jeune comédienne qui doit préparer une audition pour Roméo et Juliette, pour jouer Juliette. Et ça va lui redonner un petit peu, voilà, lui remettre un peu de baume au cœur. Et par ailleurs, il est tombé en amitié avec un jeune gars qui fait la manche sur Times Square, avec des têtes des personnages de Disney pour essayer de gagner un peu sa vie. Et ces quatre personnages blessés par la vie qui vont se tendre la main pour essayer de la traverser, de se la rendre un peu meilleure, cette vie. Le pitch est un peu triste, mais c'est très drôle.
Voilà. Times Square.
C'est très émouvant, j'adore cette pièce.
C'est mis en scène par José Paul.
José Paul, Clément Coche, l'auteur, avec Axel Orient, Camille Aguilar et Marc Fayet.
Voilà les quatre acteurs que vous
pouvez
applaudir.
Et c'est où alors ?
Applaudir.
Au Théâtre Montparnasse, voilà, à partir du 22 janvier.
Au Théâtre Montparnasse.
Du mardi au samedi à 20h30, les samedis à 17h et 20h30, et les dimanches à 15h30.
Et quelle est la jauge ?
La 650 places.
Moins de 2000.
Mais on peut, il n'y a pas de jauge restrictive. Vous pouvez venir avec un masque et du gel.
C'est
très tendancieux ce que je viens de dire. Attention, ça n'est pas une boîte de nuit.
Je connais d'autres endroits. Ouais.
C'est avec RTL en plus.
C'est avec RTL.
Allez-y,
un aussi, spectacle hein. Sérieux.
Allez-y, les yeux fermés au théâtre Montparnasse.
Bah, c'est pas sympa pour ça. C'est très
sympa. Vous allez rien voir.
Vous y allez vraiment. Il est pas venu pour se faire insulter.
Tiens, il va avoir des gens avec des masques et les yeux fermés. C'est compliqué.
Vous y allez les yeux fermés. Une fois dans la salle, vous les ouvrez. Voyez-vous. Ça veut dire en toute confiance, bien sûr.
Bien sûr.
Merci Laurent.
Square, une pièce de Clément Coq. Donc c'est un Français qui a écrit une pièce. Alors pourquoi il a situé ça aux États-Unis alors ?
Ben, il adore les États-Unis. Il avait écrit une autre pièce qui s'appelle Sunderland. Et il écrit comme un auteur anglo-saxon. Ouais, c'est-à-dire que c'est à la fois très émouvant et très drôle. C'est pour ça que j'ai dit oui, parce que c'est super, quoi. Enfin, j'adore, moi.
On va y aller, ça donne envie.
Guillaume de Tonquédec, à nouveau sur les...
Viens, Gad.
À nouveau sur les planches. Bravo, Jean-Benguigui, vous avez été très rapide.
Mais Jean, qu'est-ce qui vous a... en arrivant tout à l'heure. Dans voiture, je raconte, j'ai vu Times Square, j'ai vu son nom. Et
voilà. Quand vous avez entendu New York, New York,
j'ai dit c'est ça.
Ben vous avez dit
bah,
c'est
bravo,
ça.
Merci.
Et oui,
il
c'est
est malin.
La musique qu'on a entendue en deuxième indice, c'était la musique du film La Garçonnière. C'était déjà José Paul qui avait mis en scène.
C'est José Paul qui avait mis en scène La Garçonnière et c'est pour ça que j'y retourne parce qu'on s'était tellement amusé. Que j'ai dit à José, bah ouais, bien sûr, on recommence. D'abord parce que la pièce est super. En fait, on s'est appelé avec Clément et José, et on s'est dit si t'y vas, j'y vais, et voilà, et nous y sommes.
La troisième chanson, si on peut la réentendre.
Alors, ça, c'est Jérôme Robotier, c'est dans Le Prénom.
Ah.
Le film Le Prénom. Qu'est-ce que tu, dans laquelle tu m'avais vu
Il a fait la pièce, il a fait le film.
Edouard VII.
Hello My Darling, c'est effectivement la chanson du film, Le Prénom. Ensuite, on a entendu Nolwenn pour vos origines bretonnes, Guillaume de Tonquédec. Alors, c'est qui votre homonyme, Guillaume de Tonquédec ?
Eh ben, y a un autre Guillaume de Tonquédec qui fait de la air guitare et qui s'appelle Moshpit.
Moshpit, ça, c'est précis quand même.
Mais Moshpit, c'est les Hernadettes.
C'est les Hernadettes,
ah,
bien sûr.
Mais oui. Et il s'appelle Guillaume de Tonquédec.
Ouais.
Oui.
Il
ne
faut pas lui dire parce qu'il n'est pas au courant. Mais non. Ouais, il reçoit des courriers pour moi souvent, etc.
Ah, mais je ne comprenais pas cet indice pour une fois. C'est
non,
moi
c'était incompréhensible.
Mais oui, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième Guillaume de Tonquédec.
Allez voir les Hernadettes, c'est vachement bien.
Après, on a entendu Savoir aimer, effectivement, la chanson du film Coexister, où mais on avait toutes les religions représentées grâce à Fabrice Eboué. Si vous n'avez pas vu ce film, d'ailleurs, comme la plupart des films de Fabrice Eboué, le dernier en date, hélas, n'a pas eu le succès mérité, je trouve, dans les salles de cinéma. Mais c'était
Barbac,
mais c'était très, très drôle aussi, Barbac. Et pour Coexister, même chose,
drôle,
n'hésitez pas.
C'est un super auteur, Fabrice, ouais, puis il fait rire, mais pas que, etc. C'était aussi très intelligent, et ça fait du bien de dénoncer certaines choses comme ça avec beaucoup d'humour.
Fais pas ci, fais pas ça. Bon, bah alors voilà, ça c'était l'indice fatal. Là-dessus, vous voyez quand même, monsieur Gad Elmaleh, vous auriez pu trouver votre camarade qui en plus vous dit j'aimerais un jour jouer avec vous.
Bah moi aussi, ouais, j'aimerais jouer avec lui.
Bah ouais.
Et bah voilà.
Bah voilà.
Bah voilà.
Pour moi, c'est l'un des plus grands one-man showistes français.
Ah,
donc,
merci.
D'accord.
Merci.
Je sais pas si on dit comme ça one-man
show. One-man show.
Oui, on dit ça, on dit tout. Ça aujourd'hui,
alors
on...
que pour Christophe,
tu prends.
Alors ça tombe bien, on est tous invités le 24 février au Palais des Sports.
Voilà, alors justement.
pour l'anniversaire de Laurent.
Il y a une jauge.
Mais on viendra un par un, tu fais le spectacle pour nous tous.
Voilà, exactement.
Une fois par personne.
Guillaume de Tonquédec au théâtre Montparnasse avec Camille Aguilar, Marc Fayet, Axel Orient. Voilà l'affiche de Times Square. On vous souhaite un gros succès dans tous les cas, effectivement, à partir du 22 janvier, 20h30, au Théâtre Montparnasse.
Merci.
À demain, 15h30, pour d'autres grosses têtes pendant le week-end. Sinon, à lundi. Et à bientôt sur Paris Première.